This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Comment apprendre un nouveau sport et développer nos compétences techniques dans les sports que nous pratiquons déjà? C'est le sujet de cette minute perf avec Laure. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la minute perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Allez, c'est parti. Et le sujet du jour, c'est comment apprendre un nouveau sport, comment gagner en compétences dans les sports que nous pratiquons déjà. Quand on parle d'entraînement, on s'intéresse souvent à notre capacité à courir plus vite ou plus longtemps, soulever plus de poids, mais c'est oublié que l'apprentissage du geste et des techniques, développer de nouvelles compétences techniques, ben c'est des choses en fait qui nous permettent aussi de performer, hein, de découvrir les sports, d'être plus à l'aise, de vraiment de se sentir mieux dans notre sport et d'être capable de le pratiquer de la meilleure des manières. En fait, nous apprenons des choses en permanence, dans la vie comme dans le sport. Moi, par exemple, dans le sport, je démarre le cyclisme à 46 ans et avant, j'ai vraiment appris à courir à 42 ans quand je me suis mis à préparer mon premier marathon. Et puis, j'essaye aussi de m'améliorer en natation. J'ai essayé aussi de me mettre à la musique, comme j'ai réussi à intégrer le dessin dans mon quotidien auparavant. Eh bien, tous ces apprentissages passent par des étapes similaires que Laure nous détaille. Et avant de parler de ce sujet vraiment précis, nous avons aussi répondu à des questions autour de la reprise après une coupure ou une période d'entraînement réduite. Et puis aussi la question de l'apport du ski, y compris du ski de descente, comme une forme d'entraînement croisé. Voilà, c'est un bel épisode, il y a eu beaucoup de sourires, une belle discussion, et je vous laisse maintenant la découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Oui, tu l'as eu. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est une plaisanterie, non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, on est sous l'angle de la rigolade. Je vous explique juste quand même parce que c'est, je disais alors, pour plaisanter, je dis attention, tu me laisses pas un petit blanc, sinon au montage, je suis obligé d'avoir du boulot. Et bon, c'est le seul truc que j'ai à couper, à retoucher à chaque fois, mais là, ce coup-là, j'aurais pas à le recouper, donc je te remercie. Comment vas-tu?
C'est bien une des premières fois qu'on me dit que je vais lentement. Je peux te dire que d'habitude, on me reproche plutôt d'aller trop vite. Et ben là, c'est la première fois de ma vie que j'entends t'es trop lente, tu vois.
Mais je qui te reproche d'aller trop vite?
Tout le monde. C'est l'enfer. C'est une catastrophe.
Mais tu parles des étudiants, tu parles de...
Je parle de tout le monde, vraiment. Non, mais je le sais, hein, j'ai un petite complexité sur le fait d'aller trop vite. Et parfois, du coup, on fait pas bien les choses. Et c'est pas bien.
D'accord. Bah moi aussi, on dit que je parle beaucoup trop vite dans les podcasts. Et mais bon, on sait comme ça et tout. Et on m'a dit mais tu parles trop vite et tout. D'accord. Je vais essayer de ralentir aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, je vais même pas beaucoup parler aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris entièrement le sujet dont on va parler aujourd'hui.
Dis que le sujet est compliqué.
Non, c'est pas qu'il est compliqué, mais on avait fait un plan. C'est vrai que le plan, il est tel qu'il est. Et aujourd'hui, dans mon plan et par rapport à ce dont nous allons parler, on a un tout petit écart, je pense, une petite évolution, mais tu vas nous expliquer pourquoi, parce que vraiment c'est important. Mais avant que l'on parle du sujet précisément, on va relier ça à une question, parce que j'ai eu des questions qui avaient été posées, notamment sur une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre après 3 semaines de pause, et sous-entendu un petit peu, est-ce que j'ai tout perdu mon niveau, est-ce que j'ai tout perdu, est-ce que je vais encore savoir courir, est-ce que je vais encore savoir nager, est-ce que je vais encore savoir pédaler, est-ce que je vais encore savoir, je sais pas, toutes les habiletés qu'on pourra avoir, qu'on a peur de perdre, sur les fameuses périodes de pause hivernale, par exemple. Mais aussi, je me dis, pour des gens qui, avec le temps, la neige, aujourd'hui, là, en Auvergne, nous, on est sous la neige, qui voulaient, prévu de courir, de faire des trucs, qui finalement ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et qui finalement, ça repousse. Et je parle même pas de ceux qui vont partir au ski pendant les vacances de février, etc. Et donc, ils vont faire des pauses, et qui ont l'impression que cette période hivernale, en fait... Et peut-être c'est le sentiment que c'est je prends une pause, je repars, j'ai cette espèce de truc là comme ça quand on, de va-et-vient comme ça entre je cours un peu, je courotte en fait, je courotte, je me pose, je courotte, je me pose, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens quand même qui se demandent dans quel état ils vont reprendre. Par exemple, après les vacances, tu vois, en genre février, quand les beaux jours vont revenir et tout, ils vont se dire « maintenant j'attaque ma préparation pour le marathon de je sais pas quoi ». Et ils ont peur de se demander comment ils vont reprendre. Et c'est logique.
Alors, déjà, on peut peut-être mettre, alors, Ça dépend, je suis désolée Bertrand, mais ça va dépendre d'un facteur, parce que je sais que t'aimes pas quand ça dépend, mais ça va dépendre de est-ce que la coupure est franche ou est-ce que elle est aussi, et tu as évoqué une très bonne idée, la question du ski, ou est-ce que cette coupure, elle est associée à une autre forme de pratique. Quand cet épisode va sortir, l'épisode sur l'entraînement croisé sera sorti, et donc en fait on pourra tout de suite faire le lien entre... l'entraînement croisé et la coupure. En fait, on peut tout à fait couper de la pratique de la course à pied tout en maintenant une activité physique différente. On peut marcher, on peut faire du ski de fond, de la raquette, la rando, tout un tas de trucs. On peut nager, etc. Donc déjà, on pourrait peut-être essayer d'envisager la question de la pause. Est-ce que la pause, elle est vraiment pause ? Est-ce qu'il n'y a plus du tout de sollicitation de l'organisme, ou est-ce que c'est une pause dans une activité, mais que d'autres activités viennent compenser? Donc, on va résoudre tout de suite le problème. Si cette pause, elle est associée en fait d'autres activités. Alors, après, tout dépendra non seulement de l'intensité, mais aussi du temps passé dans ces activités. A priori, il y a très peu de chances et très peu de risques qu'il y ait une grosse déperdition, on va dire, entre guillemets, des performances, du bien-être, de tout ce qui aura été acquis. Voilà. On va considérer que il n'y a pas beaucoup de pertes dans ces situations-là. Pourquoi ? C'est ce qu'on expliquait dans l'entraînement croisé, c'est qu'en fait, puisqu'on va venir continuer de mobiliser les ressources, et on voit bien que sans forcément les développer, on va juste mobiliser notre niveau de ressources acquis, au final, on va rester totalement, entre guillemets, dans l'activité. On va pas avoir une perte si grande que ça, du moins sur le plan des fonctions physiologiques. Ça me paraît très important. On va vraiment distinguer trois aspects. On va distinguer les aspects physiologiques, psychologiques et biomécaniques. Clairement, la technique de course, on va pas la perdre en 3 semaines, même si on fait d'autres activités. C'est un schéma corporel qu'on a intégré. Il y a zéro problème par rapport à ça. La pause et l'entraînement croisé peuvent permettre de remobiliser des ressources psychologiques dans la mesure où ça peut tout à fait permettre de relancer une motivation, un plaisir de pratique qu'on avait perdu. Et tu l'as très bien dit, en ce moment, il fait pas beau, faut quand même être ultra motivé ou avoir une motivation intrinsèque très très importante à la pratique de la course à pied pour continuer de courir malgré un temps pareil. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est un objectif qui est personnel et qui ne dépend pas en fait d'une variable extérieure. L'exemple qu'on donne souvent pour caractériser la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est à l'école, un élève qui est motivé par les notes, il est extrinsèquement motivé pour réussir parce que la note est un outil extérieur de mesure de son... Alors qu'un élève qui est intrinsèquement motivé pour apprendre, c'est une motivation qui est intrinsèque. Donc on voit bien que sur le plan psychologique et biomécanique, zéro problème. Sur le plan physiologique, c'est différent. Selon que la pause soit une pause ou selon que la pause soit considérée dans le cadre d'un entraînement croisé. Je pense y avoir répondu sur la question de l'entraînement croisé. Tu veux que j'aille plus loin ou pas, Bertrand ?
Non, non, mais on va dire qu'en fait, quelqu'un qui part faire du ski de fond, par exemple, on va dire qu'il va travailler ses capacités d'endurance, etc. Le cardio va fonctionner. Voilà, grosso modo, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont fait nager, vélo, etc., il n'y a pas de souci non plus là-dessus parce que finalement, ça s'entretient tout ça. Après, tu vois, c'est une question que je me pose toujours, c'est quelqu'un qui fait du ski de descente. Enfin, le ski de descente, c'est physique sur, tu vois, les muscles et tout. Mais est-ce que finalement, alors je sais pas, t'as peut-être pas la réponse, mais je me demande si finalement, est-ce que le ski de descente peut avoir des bénéfices, tu sais, sur d'autres sports dans l'entraînement croisé. Tu vois, quelqu'un qui se poserait la question, comment, à la limite, il pourrait se demander s'il pourrait avoir un croisement de l'habilité, tu vois, là-dessus, en se disant, tiens, je vais casser de la fibre si je fais un champ de bosse à fond, tu vois, je sais pas. Je te donne un exemple, mais vraiment, comme ça, en me disant, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose ?
Tu me donnes 4 minutes pour y répondre ?
Vas-y.
Allez, j'y réponds. Clairement, il y a du transfert. C'est-à-dire que, mais on revient à ce qu'on expliquait aussi dans l'entraînement croisé. Globalement, le ski de descente peut mobiliser les ressources énergétiques sur le plan aérobie. Clairement, on va pas être dans un effort aérobie parce que le moment, alors ça dépend qui, ça dépend le niveau de chacun, ça dépend le temps qu'on passe à descendre par rapport au temps qu'on remonte, parce que je rappelle que on est dans une activité aérobie à partir du moment où la récupération entre les efforts, quand on est dans du fractionné, est inférieure à 3 minutes. Donc en gros, c'est très rare d'avoir des remontées où on passe moins de 3 minutes sur les remontées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire que on n'est pas totalement dans un effort aérobie, puisqu'on avait expliqué que de toute façon, les trois filières, elles se mettaient en jeu en même temps, je vais pas revenir là-dessus. Donc, globalement, on a une petite partie de l'énergie qui est resynthétisée, pas uniquement par le système aérobie. la majeure partie du processus dans lequel on est quand on skie, en fait, on est en anaérobie lactique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des efforts. Alors, ça dépend du niveau de chacun, encore une fois, et du temps qu'on passe sur les pistes, mais on est globalement sur un effort de 1 minute 30 à 3 minutes sur la piste. Et d'ailleurs, on le sait et on le sent, hein, cet effort, il est caractérisé par quoi ? Il est caractérisé par la production d'acide lactique, puisque je le rappelle, à ce moment-là, le pyruvate ne se transforme en lactate parce qu'il ne rentre pas dans le cycle de Krebs en l'absence d'oxygène. Donc, on le sent, hein, on arrive à la fin, en bas de la piste, on a souvent les cuisses qui brûlent, c'est souvent pas très agréable. Bah, ça, c'est un indicateur très marqué du fait qu'on a un taux de lactate qui est hyper élevé dans le sang. Donc, globalement, bah, si vous voulez des indications physiologiques, ça veut dire qu'on est au-delà de 8 millimoles par litre de sang, donc on a dépassé le seuil aérobie, et donc on c'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Ce qui fait que on est obligé de s'arrêter à ce moment-là dans la descente, c'est parce qu'on a les cuisses qui brûlent. Donc, pour revenir à la question, parce que j'ai pas perdu ta question de vue, l'idée c'est quand même de se poser, de se dire, est-ce que cet effort de type majoritairement anaérobie lactique, il peut avoir une incidence sur mon entraînement ? Et si on se souvient bien, on avait expliqué pendant, alors notamment sur des efforts d'endurance, et là où on rebascule dans le processus anaérobie lactique, donc lorsque l'intensité de course est très importante en aérobie, on se souvient qu'on peut rebasculer sur cette filière anaérobie lactique. Et donc, bah, c'est bingo, on a compris. C'est-à-dire que puisque l'on va développer la filière anaérobie lactique seule, eh bien en fait, cela va nous permettre, une fois que l'on sera en aérobie et que l'on rebasculera sur cette filière parce que l'intensité de l'effort importante, le mur du marathon, tout ça, eh bien, on voit bien que finalement, en ayant progressé dans cette filière, eh bien en fait, on va progresser dans nos efforts. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Parce qu'il faut schématiser un tout petit peu, mais je rappelle, hein, chaque filière énergétique possède une capacité et une puissance, donc un réservoir et un débit globalement. Ça dépend du temps qu'on passe dans la filière et ça dépend de l'intensité qu'on met dans cette filière. Globalement, je pense que sur du ski, on est davantage sur la capacité anaérobie lactique dans le sens où on dure dans la filière et il n'y a pas une intensité. Alors, ça dépend une nouvelle fois de qui, de la musculature, de la taille des skis, de tout un tas de choses. Mais globalement, on est davantage sur de la capacité anaérobie lactique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ça va nous permettre, en aérobie, d'avoir légèrement décalé le seuil. C'est-à-dire, ça va nous permettre de décaler légèrement le moment où on va rebasculer de manière très majoritaire dans cette filière anaérobie lactique. Donc, je donne un exemple concret, et c'est totalement imaginé, hein, mais c'est juste pour que les gens se rendent compte. Si on fait du marathon, et que normalement, on aurait dû avoir un mur, je sais pas, à une intensité de 85%, on va dire, de la VMA, admettons, et ben en fait, le fait d'avoir travailler, développer cette capacité lactique, bah on peut peut-être envisager qu'on aurait le mur à 86 ou à 87% de la VMA. On va décaler en fait le mur dans les intensités. Pour quelle raison ? Parce qu'on va simplement augmenter la capacité à supporter du lactate aussi. C'est surtout ça. Hein. Non seulement la capacité à la supporter, mais aussi de retarder le phénomène de l'apparition et de l'effet de seuil. Donc, première réponse à ta question, le ski alpin, oui, bien sûr. Alors après, tout dépend à nouveau hein, de combien de temps on en fait par jour, quelle intensité on y met, combien de temps on reste aussi. Je pense que 2 semaines, voilà. Et après, il y a un autre, il y a quand même un autre facteur qui intervient, qui lui n'est pas des moindres, c'est le facteur de l'altitude. Parce que on le sait, hein, en altitude, on va avoir tendance à produire plus de globules rouges parce qu'il y a un manque d'oxygène. Donc concrètement, notre organisme, il est pas débile, hein. Il faut qu'il continue de respirer, il faut qu'il continue d'absorber des molécules. Donc il se dit, bah on va produire plus de globules rouges, comme ça je vais capter plus d'oxygène. C'est vraiment un mécanisme qu'on appelle adaptatif aigu. Ça veut dire quoi ? C'est un mécanisme d'adaptation à un phénomène ponctuel et qui est totalement identique à des mécanismes d'adaptation que l'on appelle chroniques à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, notre corps il fait la même chose, étant donné qu'on capte moins d'oxygène, parce qu'il y a cette histoire de dette d'O2, etc., eh bien, on produit plus de globules rouges en s'entraînant petit à petit, justement pour la même raison, en se disant, bah, avec un nombre de globules rouges donné, je capte pas assez de molécules d'oxygène, donc plus je produis des globules rouges, plus je vais en capter. Donc on voit bien que bah là, on est hyper cohérent, parce que l'altitude va contribuer à l'augmentation de la construction de ces globules rouges, dans le même temps qu'on en a besoin, nous, pour nous entraîner. Donc il y a un double effet « qui se coule », entre guillemets, j'ai envie de dire, dans le sens où non seulement on a plus de globules rouges, mais en plus, on a travaillé sur la filière lactique. Donc voilà, Tu m'as donné 4 minutes, en 4 minutes, j'ai résumé, je pense.
Bon, t'as mis un peu plus de 4 minutes, mais c'est pas très grave. T'as mis un petit peu plus, mais non, mais bon, après, trêve de plaisanterie, non, mais c'est vrai. Bon, ceux qui auront la chance d'aller skier, etc., vous savez que vous n'allez pas perdre, etc., et qu'en plus, vous pouvez travailler. Et c'est vrai, cette sensation des cuisses qui brûlent, là, et tout le monde le connaît. On se dit, oh, je viens de m'arrêter, ça fait mal aux cuisses, ça brûle, etc. Bon, bah maintenant, vous savez.
On est dans la filière lactique. Ouais.
Et puis, comme ça, quand vous arrivez en bas et que vous reprenez le télésiège et vous direz à votre voisin, oh là 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 là, j'avais les cuisses qui brûlaient, tu sais, c'est ma filière lactique et tout, j'étais en aérobie lactique, je me rends pas compte, mais j'ai repoussé au mur du marathon, je serais meilleur. Tu vois, vous allez pouvoir vous la péter sur le télésiège et vous direz à ce moment-là que c'est, vous l'avez entendu, dans la minute perf de kilomètre 42. Et comme ça, vous donnerez le lien directement.
Moi, je veux quand même faire une petite nuance parce que c'est toujours très difficile le lendemain du ski. Mmh. C'est toujours très difficile le lendemain du ski. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on va créer beaucoup plus de courbatures. Donc, il faut faire très attention dans la transition entre une semaine de ski et une semaine de course. C'est-à-dire, on va créer beaucoup de dégâts d'un point de vue de la fibre musculaire. Et aussi, on aura adopté un schéma corporel pendant la semaine et des manières de mobiliser les fibres musculaires qui sont très traumatisantes. On sait qu'on casse plus de fibres en excentrique. Il y a certains mouvements dans la pratique du ski de fond, du ski alpin, pardon, qui sont dans l'excentrique. Et donc, il faut faire très attention parce qu'en fait, on arrive avec des micro-traumatismes. Et en fait, donc, il faut, quand on passe de chez nous à la montagne, il faut faire attention parce qu'il y a une perte d'oxygène. Donc, en fait, notre corps, il va avoir besoin de certains mécanismes d'adaptation. Alors après, ça dépend où on est. Hein. Si on est à 1000 mètres, c'est pas les mêmes phénomènes qu'à 1800 ou qu'à 2000.
Bon, à 1000 mètres, je fais pas de ski cette année. Hein.
Si, ça a bien neigé.
Si, ça commence à arriver. Non, mais c'était une plaisanterie, mais bon. Voilà, c'est ceux qui, si vraiment tu veux avoir de la neige, être sûr d'avoir de la neige.
Bertrand, la dame te dit qu'il a neigé, d'accord?
Oui, donc, c'est vrai. La dame qui habite à côté d'une station qui a 300 mètres d'altitude.
La dame te dit qu'il a neigé.
La dame dit qu'elle a repéré la neige.
La dame te dit qu'elle a repéré la neige. Bon. Au-delà de ça, il faut s'adapter dans les deux cas. Il faut s'adapter avant le ski à après, et il faut s'adapter en fait aussi en retour. Et moi, je crois surtout que l'adaptation la plus sensible, entre guillemets, c'est au retour. Et je pense qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus parce qu'on revient un peu revigoré, on était en vacances et tout. On n'a pas couru. Donc, paradoxalement, on peut avoir des courbatures. Comme j'expliquais, le lendemain toujours difficile, on peut avoir des courbatures et dans le même temps, on peut ne pas en avoir. Et auquel cas, c'est un peu l'effet où on se sent hyper bien et puis au final, ça marche pas, quoi.
Ouais. Voilà. Et puis, est-ce que l'abus de fondu savoyard, de petits trucs, de la grande, comment dire, je veux dire, sur les stations de ski, il y a quand même une grande variété culinaire, c'est-à-dire qu'il y a des patates, du fromage fondu, tous ces trucs-là, le petit vin chaud dans le truc d'altitude, etc.
C'est une super question parce qu'en fait, l'alimentation qu'on a au ski, elle est grasse et majoritairement issue des produits laitiers, beaucoup. Enfin, il y a quand même beaucoup de fromage si on suit un peu les spécialités locales. En tant que tel, c'est cool parce que ça permet au corps de décompresser, de manger d'autres choses, mais on sait aujourd'hui que c'est une alimentation que l'on appelle acidifiante parce que les produits laitiers vont avoir tendance à acidifier le corps. Alors là, je rentre dans des détails de micronutrition, je ne vais pas aller trop loin, mais globalement, dans notre corps, il faut qu'on ait un équilibre acido-basique. On a des aliments qui vont avoir tendance à basifier et d'autres à acidifier. Il faut simplement qu'il y ait un équilibre, c'est tout. Il n'y a pas des mieux et des moins bien, il faut juste qu'il y ait un équilibre. Donc quand on prend plus de produits laitiers, c'est important de compenser avec des aliments qui vont du coup basifié, puisque j'ai expliqué que le produit laitier, il avait tendance à acidifier l'organisme. L'acidification de l'organisme, elle mène à quoi chez le coureur? Malheureusement, souvent à des tendinopathies, à des micro-lésions, donc on a plus de mal à récupérer, on a plus de mal à régénérer fibres musculaires, donc on voit bien qu'il faut faire attention à ça, donc d'où ta remarque, je te remercie, c'est super intéressant Bertrand, j'y aurais pas pensé. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et dans le même temps qu'il faut s'assurer de finalement reprendre progressivement, et on va continuer de répondre à la question, hein, mais il faut aussi reprendre progressivement après une coupure de ski pour cette raison-là, parce que le corps, il est dans un état physiologique peut-être acide, légèrement, à cause des raclettes et de tout le tralala. Du coup, je rebondis ou tu veux reparler?
Non, mais toi, on n'avait pas du tout prévu de parler de ski au début, mais c'est bien parce que finalement, ce genre de questions, et même, je pense que d'ailleurs, Jean-Yves qui pose la question n'avait pas du tout l'esprit ski, mais c'est vrai que dans l'actualité, On va dire quand même que nous, les vacances scolaires de la région où on est, nous, là tout de suite, ça commence juste dans une semaine pile par rapport à la date d'enregistrement.
Ça commence maintenant.
Non, dans une semaine.
Ah, mais j'aime bien.
Une semaine. Et attends, une semaine. Et puis que le temps que les gens écoutent, etc. Si vous êtes en région parisienne, etc. Enfin voilà. Et moi j'ai appris que les vacances scolaires avaient été faites pour les Parisiens cette année pour qu'ils puissent avoir du ski, aller au ski. Ce qui nous explique pourquoi nous.
Mais toi, tu crois à la théorie du complot, toi.
Non, c'est, je te jure, c'est les incites. Et les incites, à mon école,
non,
elles sont un peu
colères.
Non,
c'est pour l'année prochaine, Bertrand,
parce
qu'il y a
disent,
eu des modifs.
Elles nous disent, ouais, mais cette année, on n'a que 5 semaines. Et attends, et on n'a que 5 semaines entre depuis Noël et le début des vacances. Et la première semaine, il y avait déjà que... Il manquait un jour, et puis et tout. Alors, elle disait, oh, on a le temps de rien faire, etc. Et tout. C'est la faute des parigots. Bon, je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot.
Tu sais très bien que les incites, c'est souvent des vieilles poules, non? Qui disent toujours des choses comme ça. Non, comme
ouais, il n'y a pas que des vieilles dans mon école, hein, tu sais.
Bon, ouais, va,
ils ont remplacé les poules, ils ont mis des plus jeunes. Bon, attends, non, mais arrête,
toi,
arrête de parler de tes collègues comme des poules,
t'as
franchement.
Quand même pris une voix, hein,
je te signale. Si, non, mais c'est drôle parce que, en fait, il y a eu beaucoup. Il y a des. C'est drôle quand même, les discussions et tout. Et tout le monde trouvait qu'en fait, la période là, le mois de janvier, est à peine fini, que déjà on va attaquer
de
les vacances.
De toute façon, on a toujours que 5 semaines. On a toujours que 5 semaines.
Bah ouais, mais ça fait super tôt, quoi, en fait, et tout. Bref, allez. C'était un détail, mais bon, c'est vrai.
Autant
que...
dans les îles, l'hiver, ils ont 6 semaines consécutives et on sait qu'a priori, ça serait le meilleur rythme pour les enfants d'avoir 2 fois 6 semaines plutôt que... De toute façon, il n'y a pas de bon rythme, en fait, entre guillemets, pour les enfants par rapport à ça. De toute façon, toutes ces heures d'apprentissage, et je vais rebondir sur la question, tu vas voir. Je vais rebondir sur la question. Je pense que toutes ces heures d'apprentissage ou de course... présente des avantages et des inconvénients. On vient d'expliquer que effectivement la question elle est formulée de telle manière à ce que il y a que des contraintes au fait d'arrêter. Ouais. Et c'était là où je voulais rebondir moi sur la suite, c'est qu'en fait pour moi il y a aussi des énormes avantages à arrêter. Et notamment 3 semaines. En fait, on le dit. Enfin hein, moi je l'entends depuis que je suis toute petite. 3 semaines c'est le minimum quand on veut faire une coupure. En athlée, je parle, hein, en fond ou en demi-fond. Parce qu'en fait, c'est le minimum pour régénérer les fonctions physiologiques et permettre à l'organisme de réellement pouvoir repartir entre guillemets de zéro et sur une base saine. La plupart du temps, ces coupures de 3 semaines, elles se font l'été, mais c'est pour des raisons sociaux, on va dire, économiques qu'elles se font l'été, ces coupures. Parce qu'en fait, clairement, on respecte pas, je pense, le vrai besoin de l'individu. Pourquoi on le fait l'été? Parce que, tout est fermé, les clubs sont fermés, etc., etc. Mais si on interroge, peut-être plus individuellement les motivations de chacun, alors moi, clairement, si on me propose de faire 3 semaines de pause, je le fais l'hiver, c'est sûr. Parce que c'est beaucoup plus dur de s'entraîner l'hiver. On en a parlé à cause de la météo. Mais aussi, il faut quand même envisager le fait que pendant l'année, il n'y a pas de coupure parce que là, c'est la saison des crosses. Donc, je ne vois pas les clubs dire à leurs adhérents faites votre petite pause maintenant, alors qu'ils ont besoin des gens pour faire les crosses. Parce qu'on sait que dans les crosses, il y a souvent aussi une dynamique d'équipe. On fait souvent un résultat d'équipe. Donc voilà. Donc, la coupure a souvent lieu l'été. Mais cette coupure, quelle qu'elle soit, au moment où elle se situe, en fait, elle est importante, mais elle n'est pas forcément importante pour tous les coureurs et pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est important aussi à comprendre. C'est-à-dire que c'est une période qui permet de régénérer les ressources. Or, on l'a expliqué, il y a 2 choses, et ça, on va faire le lien avec l'épisode. Finalement, je retombe bien sur mes pieds. Il y a une différence entre mobiliser ses ressources et développer ses ressources. Alors, quelle est la différence? Le fait de mobiliser ses ressources, c'est le fait de s'engager. On parle d'engagement, c'est-à-dire à ce moment-là, je me mets en activité, point. Et c'est ce qu'on expliquait, je suis dans une sorte de zone de confort, dans le sens où je vais venir simplement mobiliser des ressources existantes. À la différence du développement des ressources, qui lui est lié à ce qu'on appelle de l'apprentissage. Il y a apprentissage à partir du moment où on va modifier notre conduite. Donc à partir du moment où on va vraiment développer un nouveau niveau de ressources, on va dire ça comme ça. Donc la pause, est-ce qu'elle est nécessaire pour tout le monde? Moi je crois pas. T'en es l'exemple vivant. Moi j'ai fait une coupure parce que j'ai été malade il y a pas longtemps, mais moi c'est pareil, je cours tous les jours comme toi. Pour autant, on est dans une forme de zone de régularité et de confort. Et en fait, on a de la marge dans le sens où on est capable, sur un footing, sur une journée, de se dire... Déjà, on est sur des intensités qui sont basses, toutes les deux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas obligé, entre guillemets, d'avoir une coupure physiologique. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on a de la marge dans le sens où, toi, ça t'arrive de faire 3 km. Alors moi, j'ai pas encore accepté cette idée, j'y arrive pas, mais on va faire un tout petit peu moins de kilomètres sur un jour, ou 2 jours, ou 3 jours de suite, ce qui fait qu'on va réduire la charge. Mais pour nous, c'est déjà pas mal. Mais en fait, pour quelqu'un qui courrait pas tous les jours, ça serait beaucoup. Donc, en fait, on voit bien que c'est une histoire davantage d'intensité et de répétition de l'effort. C'est-à-dire que on peut pas maintenir un niveau d'entraînement toute l'année. Par contre, on peut maintenir un niveau d'activité physique et de sollicitation physique toute l'année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et même en développant nos ressources, hein, c'est-à-dire qu'on peut continuer de développer petit à petit nos ressources sur du long terme, parce que la contrainte qu'on fait peser sur nous, elle est infime par rapport à notre niveau de ressources. Alors, j'y crois peu quand même, hein. Je crois peu au fait que, non, mais il y a forcément des adaptations physiologiques, c'est une certitude. Il y a forcément des choses qui se font. Moi, je pense que malgré tout, il y a un point il y a un point où on progresse plus, en fait. Il y a un moment où on progresse plus. Quand on est dans la logique qui est la nôtre, qui est plutôt une logique sanitaire. Enfin, moi, c'est juste me vider la tête et pouvoir aller souffler et me calmer un peu. Mais on a tous nos raisons d'aller courir. On a tous nos raisons de faire du sport plus ou moins tous les jours. Malgré tout. C'est pas une logique d'entraînement, ça. Et donc, il faut bien distinguer, je pense, ce qui est de l'ordre de l'entraînement avec une charge qui est posée sur le corps, donc on va être vraiment sur la logique d'apprentissage, et une logique comme la tienne et la mienne de mobilisation de nos ressources, parce qu'on a juste besoin de bouger, parce qu'on a juste besoin de s'éprouver physiquement, on va dire ça comme ça. Et donc 3 semaines de pause, pas nécessaire si on est dans de la mobilisation. Pas nécessaire. C'est un peu comme quelqu'un qui marcherait tous les jours, 30 à 40 minutes à 1 heure ou plus. Si cet effort-là, il n'est pas suffisamment pénible, intense et dur à supporter, ben c'est simplement de la mobilisation. Là où ça devient dur, intense et compliqué, c'est quand, un, il y a des courbatures, deux, la récupération, elle est plus difficile parce qu'on est dans une logique de charge. Et là, c'est effectivement super important de couper et de couper à minima 3 semaines. Du coup, comment on reprend? Parce que c'est quand même la question, on a répondu à plein d'aspects de la question, mais pas ça. Comment on reprend? Eh ben, moi, je pense que le maître mot, c'est la progressivité. C'est la progressivité dans le sens où je pense que, donc, sur le plan biomécanique, il n'y a pas de souci, on n'a rien perdu. On n'a pas déconstruit un schéma moteur, il y a zéro problème. Entre guillemets, ça ne s'oublie pas. Par contre, d'un point de vue physiologique, les ressources, elles ont été nécessairement amoindries, abaissées. Et donc, il faut quand même accepter l'idée de ne pas reprendre comme si on s'était pas arrêté. Je m'explique ou c'est super, c'est assez clair. L'idée, c'est de se dire, je m'explique, ouais, vite fait.
Moi, tu sais, je suis très bête et j'aime bien qu'on m'explique.
Ouais, ok. Il faut toujours te répéter 2 fois les choses, toi, en fait.
Écoute, tu sais, et franchement, il y a des gens qui disent, ouais, Bertrand, il est un peu bêta dans ses questions, il fait un peu l'idiot du village. Mais en fait, je joue l'idiot du village parce que je me dis que.
T'as totalement raison. C'est parce que c'est grâce à tes super questions que je peux apporter des mauvaises réponses.
Non, mais franchement, c'est.
Non, mais t'as raison.
Il y a plein de gens qui n'ont
raison.
Jamais posé des questions et qui, en fait, disent, oui, mais j'ai compris. Puis quand tu leur demandes après, en dehors, c'est les fameux niveaux de compétences. Et les personnes disent, ouais, mais en fait, j'ai pas tant compris que ça. Est-ce que je suis pas capable de leur réexpliquer? Vraiment, et donc
ah
là,
mais
tu
ça c'est clair, ça c'est t'as raison,
donc c'est pour ça que je joue l'idée du village aussi de temps
mais
en temps.
Non,
parce que
tes questions elles sont toujours trop bien. Bon, donc la question c'est, je l'ai perdu du coup, tu m'as déstabilisé.
Non, mais l'histoire de reprendre, etc. De
oui, avec
de,
la progressivité.
La progressivité
donc, concrètement, et en fait, il faut accepter l'idée que la charge d'entraînement qu'on va faire peser sur nous au bout de 3 semaines, il faut qu'elle soit totalement différente de la charge que l'on avait 3 semaines avant.
Ouais.
Surtout si on était sur une logique de préparer un événement, un marathon, une course, peu importe laquelle. Parce que souvent, on était sur un plan qui allait crescendo avec l'augmentation d'une charge et de l'intensité de l'effort. Donc, d'autant plus dans ce cadre-là. Si on était globalement sur une phase de stabilisation, à voir. Moi, j'ai toujours entendu, depuis toute petite, qu'il fallait, je sais pas trop, je pense que enfin, je pense que c'est prouvé scientifiquement, mais j'ai pas la référence là-dessus, mais j'ai toujours entendu ça. Qu'il fallait doubler, qu'à chaque fois qu'on ne s'entraînait pas pendant 1 semaine, par exemple, il fallait 2 semaines pour revenir à minima au niveau d'avant. Ça voudrait donc dire qu'une pause de 3 semaines, il faudrait revenir 6 semaines en avant pour revoir notre niveau d'avant. 6 semaines avant la pause. Ouais, c'est bon.
Ouais, si c'est
donc,
en
du
arrière,
coup,
quoi. Enfin.
ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir à une charge de 6 semaines en avant l'arrêt et de reprendre à peu près cette charge. Pour remonter progressivement. ça peut donner un repère hyper concret en fait.
Donc,
en termes de construction,
on résume, c'est-à-dire qu'on prend son plan Strava, enfin sa montre.
Et
on regarde
6 semaines
sa pause,
avant la fin.
Et on regarde 6 semaines avant le moment où on a fait la pause. On regarde les entraînements qu'on faisait et on doit se dire qu'on est à peu près à cette activité-là, à ce niveau d'activité-là que normalement notre corps peut supporter.
Ouais, tout en acceptant vraiment l'idée de retourner progressivement. Mmh. Et la progressivité, elle est au sein de la semaine. J'avais évoqué cette idée de macrocycle, mésocycle, microcycle. Pour moi, on va dire qu'un microcycle, c'est une semaine. Un mésocycle, c'est... Moi, j'aime bien fonctionner sur des mésocycles de 3 à 4 semaines. Pas oublier qu'au bout de 3 à 4 semaines, on fait une petite semaine de relâche pour permettre à l'organisme de récupérer. Voilà, ça, c'est super important. Donc, je pense que la question, on y a répondu. Je ne sais pas si toi, tu penses qu'il y a encore d'autres choses peut-être pratico-pratiques à dire
non,
là-dessus.
Non, mais oui, je pense que la question, elle est... Non, mais franchement, on part d'une question, on en fait 28 minutes. Donc, je me dis...
Ah ouais, quand même
Oui, non, mais oui, tu sais, je suis en train de regarder mon truc, je me dis ça fait 28 minutes qu'on est en train de discuter du ski et tout, mais en fait, on a abordé plein de thématiques. Alors, en même temps, en plus de la question, et c'est vraiment un élément important. Moi, je me rappelle des discussions qu'il y a eu au club aussi, et tu sais, il y a un programme, je le suis parce que c'est la clinique du coureur, tu sais, qui a un programme de reprise en disant de l'alternance course-marche pendant la première semaine ou les deux premières semaines, et que moi j'applique quasiment systématiquement. Alors au début ça peut paraître un peu pénible de te dire j'ai envie de courir mais je reprends que par des trucs où je marche, je cours un kilomètre, je cours une minute, je marche une minute, etc. Je fais ça quelques fois, mais en fait en le faisant très régulièrement on se rend compte que la progressivité elle est assez rapide et que quand on a fait une pause de 2-3 semaines en fait on retrouve relativement assez vite les capacités à le faire et que par... Déjà, ça nous sort, ça nous sort, etc. Ça nous amène dans notre truc. On reprend petit à petit l'habitude de courir, on reprend un petit peu sa habitude. Ça permet, moi, tu sais ce que je pense, et peut-être que ça fera le lien avec ce que tu vas raconter ensuite, c'est que le danger
peut-être,
de la coupure...
Peut-être que nos inconscients vont communiquer.
Le vrai danger
peut-être.
De la coupure, pour moi, en fait, il est dans la perte de l'habitude. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super important, et que je dois le dire, et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment pour... quand certains débutants qui ça fait pas longtemps qu'ils sont en place etc qui courent et tout et on leur dit faut absolument faire une pause, il y a un gros danger parce que si tu te mets sur une pause d'une semaine le danger il est pas là, franchement il est pas là.
Tout à fait d'accord avec toi.
Deux semaines la pause, tu commences à prendre des habitudes etc, tu commences à retomber dans un rythme qui peut ressembler à un rythme que tu avais avant de commencer le sport et là mais à partir de trois semaines tu peux carrément retomber dans des super mauvaises habitudes qui sont je vais avoir la flemme de repartir. Et même chez les athlètes, je l'ai entendu dans athlètes, j'ai entendu de gens qui courent depuis des années dire ouah, c'est pas facile de s'y remettre après une pause de 3 semaines, 1 mois et tout, c'est pas facile de s'y remettre, de reprendre l'habitude, etc. Parce qu'il faut quand on fait, enfin si on s'entraîne par exemple 5 heures par semaine, je donne un chiffre comme ça, les 5 heures dans notre emploi du temps, elles existent toujours. Elles sont toujours présentes. Donc, à un moment donné, ces minutes-là, on les a utilisées pour autre chose. Et en fait, le risque, c'est que les autres choses qu'on fasse, notre petit cerveau, il dit, tiens, c'est vachement satisfaisant, finalement, de rester sur le canapé pendant un peu plus de temps, ou c'est satisfaisant de faire ça, c'est satisfaisant de faire ça, etc. Et donc, à un moment donné, il va falloir retrouver l'habitude, et que peut-être que le danger de la pause, en fait, c'est que, et là, avec ce temps-là, en plus, c'est pire, c'est que il faut se remettre dans « je reprends l'habitude de ressortir,
de recourir,
etc. » Pour
moi, ça interroge la question
de
cette récidive et cette multirécidive qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, c'est le fait de revenir à un comportement, puis le reproduire, puis le reproduire, puis le reproduire, tu vois. Et la question, c'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, on joue sur des mécanismes psychologiques, c'est clair. La question, c'est quelles sont les ressources psychologiques qu'on va allouer, et du coup, on va rebondir, pour repartir déjà. Et donc, finalement, pour se réengager. Donc, on va rentrer dans le thème, vraiment dans le vif du sujet là, de l'épisode. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre que pour réussir un objectif, puisque c'est quand même ce qui nous anime en ce mois de janvier, mois de février, début de l'année, c'est la question d'atteindre nos objectifs, de performer, de progresser. Et donc, aujourd'hui, on s'est donné comme objectif d'essayer de comprendre comment on progresse. C'était ça le titre, Bertrand, de l'épisode.
Oui.
Comment on progresse. Et donc, pour progresser, en fait, moi, j'ai modélisé, entre guillemets, une forme de logique qui me semble cohérente du progrès. Pour moi, la finalité même que l'on recherche tous, c'est la question de la compétence. Parce qu'en fait, la compétence, c'est quoi ? C'est pas juste le fait de savoir, c'est pas juste le fait de savoir-faire. La compétence, elle se définit comme la mobilisation des ressources à bon escient dans une situation plus ou moins complexe ou inédite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, quand on est compétent, c'est pas une histoire de « je sais que » ou « je sais faire ça ». Non, c'est une histoire de « j'ai plein de ressources ». Et ça rejoint l'approche, la théorie située dont on a parlé complètement. La compétence, c'est complètement l'approche située dont on a parlé dans le premier épisode. Les théories situées de l'apprentissage moteur. Ben, c'est exactement ça. C'est j'ai plein de ressources à un moment donné. J'ai aussi des contraintes, hein, parce que je suis un individu qui a des contraintes et des ressources. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et je suis compétent si et seulement si je suis capable, dans un environnement donné, dans un contexte donné, avec des circonstances données, d'aller utiliser la bonne ressource au bon moment, vis-à-vis des contraintes et des ressources de la situation dans laquelle je suis en train de vivre, tout en me disant, tout en ayant une forme de lucidité et de réflexivité sur l'utilisation de ces ressources. C'est-à-dire que je sais pourquoi je les utilise. C'est ça la compétence. C'est pas juste j'utilise la bonne ressource au bon moment. C'est je l'utilise, mais en plus je suis capable d'être lucide sur le fait que j'utilise. Exemple, je vais pas m'alimenter dans un marathon, dans un bi-born parce qu'on m'a dit de le faire. Je vais m'alimenter parce qu'à ce moment-là, je sens dans mes repères physiologiques, par tout un tas de choses, que je commence à avoir des signes précurseurs, peut-être d'une éventuelle baisse de régime ou d'une, j'aime pas appeler ça l'hypoglycémie, tu sais très bien que je ne crois pas à l'hypoglycémie à l'effort, mais une hypoglycémie réactionnelle. Voilà, une éventuelle baisse de limite d'apport de glucose dans le sang. Et donc, là, je suis compétent parce qu'en fait, je suis capable de dire, ok, par rapport à moi, par rapport à la course, là, ok, il y a ça qui est en train de se passer, donc bam, il faut que je prenne tel gel. Et je serai compétent si en plus je prends la bonne ration, le bon gel, et que ça ne me produit aucun trouble de gastrique dont on a déjà parlé, etc., etc. Que ça ne me produit pas non plus d'hypoglycémie réactionnelle parce que j'ai pas consommé trop de sucre, etc. Donc ça, c'est l'objectif final. Pour moi, c'est ça, c'est de devenir compétent. Et dans la compétence, pour moi, il y a une dimension hyper importante dans l'entraînement que je développe, c'est la question de l'autonomie des pratiquants. Moi, je dis toujours que quand on entraîne quelqu'un, le but, c'est de rendre cette personne autonome. Il faut surtout pas la rendre dépendante de nous, parce qu'il y a rien de pire que de rendre quelqu'un dépendant de quelqu'un d'autre. Je veux dire, la liberté, pour le coup, c'est très important. Mais la liberté, c'est faire être autonome dans son entraînement, ça va plus loin que d'être libre. Parce que quand je suis autonome dans mon entraînement, c'est que je sais exactement quoi faire, à quel moment et comment mobiliser les paramètres, les différents paramètres. Donc, on vient de fixer un objectif, là, tous ensemble. Maintenant, la question, c'est comment on y arrive à cette question de la compétence. Et bien, en fait, pour moi, il y a deux étapes essentielles par lesquelles on est obligé de passer pour pouvoir être compétent. La première étape, c'est la question de l'engagement. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est la question de mobiliser ses ressources. Et l'engagement, en fait, on peut le percevoir à deux niveaux. Un engagement à court terme et un engagement à long terme, ce qui continue de répondre à la question à laquelle on répond depuis tout à l'heure. À court terme, qu'est-ce qui va faire? Quand je dis court terme, c'est le ici et maintenant. Hein. Qu'est-ce qui va faire que je vais me sortir de mon canapé? Parce qu'on y est bien, c'est clair, on est bien à la maison, tranquille, au chaud.
Le plaid avec la petite bouillotte, le petit truc chaud, la petite série.
C'est,
et tout, ouais.
C'est trop bien. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais allouer des ressources pour y aller? Ben, ça, c'est la question de la motivation. En fait, la motivation, c'est l'ensemble des déterminants qui vont faire que intellectuellement, je vais accorder de l'intensité, de l'engagement, de la durabilité dans un comportement. C'est ça la motivation. Donc, en fait, la première chose, c'est finalement quelle est l'énergie qui va m'amener à sortir de mon canapé, de ma couette et de tout ce que tu veux. Globalement, on a parlé aussi tout à l'heure très rapidement, mais je vais du coup rentrer dans le détail. Il y a des motivations qui sont intrinsèques et d'autres qui sont extrinsèques. Une motivation intrinsèque à aller s'entraîner, c'est vraiment je prends du plaisir rien que dans la course en tant que telle. Et finalement, j'ai pas besoin d'autre mobile que de courir.
Ouais.
La motivation intrinsèque, elle est intrinsèque à l'activité que l'on pratique. Donc, il y a un plaisir immédiat. Point. Différé aussi peut-être, hein. Quand on est juste content de courir parce que, alors c'est presque extrinsèque ça, mais quand on en a des bienfaits ultérieurs, c'est un peu extrinsèque. Une motivation extrinsèque au fait d'aller courir, c'est, je sais pas, l'apparence physique, c'est le fait de gagner des records, de gagner des courses. Ça, c'est extrinsèque. C'est-à-dire qu'en tant que tel, la motivation à agir, en fait, on n'est pas intrinsèquement motivé pour ce qu'on fait. On est motivé pour autre chose que ce que l'on fait. C'est une étape intermédiaire, entre guillemets. Donc, ça, c'est assez intéressant de l'avoir en tête parce que finalement, on voit bien que nos objectifs personnels sont dépendants de cette motivation. Et donc, ça peut être un élément intéressant que chacun identifie, en fait, quelles sont ses motivations. Il y en a plusieurs, hein. On n'est pas soit intrinsèquement motivé ou extrinsèquement motivé, c'est faux. Et il y a des moments de notre vie où on est plus ou moins extrinsèquement ou intrinsèquement motivé. Voilà. Clairement, quand il fait chaud l'été, enfin, quand je parle pas de canicule, mais quand il fait super beau et tout, quand on se dit, ouais, c'est cool, j'ai une sortie longue, bah ouais, c'est intrinsèquement plus motivant que quand il fait pas beau et qu'il neige, hein, c'est clair. Bon, même si le pire étant la pluie, pour moi, à mon sens, mais le froid n'est pas, quand on est bien couvert, mais. Donc, il y a la question de la motivation. Il y a une deuxième. Peut-être que tu veux rebondir, Bertrand, toi, sur la motivation.
Non, mais c'est assez drôle parce que ce matin, alors là, on enregistre le 27. Je répondais à une question dans le Hamster Zoning Club et une question de Jean-Yves d'ailleurs sur les histoires de la motivation qui touchait un peu la motivation sur qu'est-ce qui était le plus beau entre la préparation, la course, est-ce que c'est la prochaine course sera toujours la plus belle, etc. Et je lui avais dit en fait que je lui dis c'est une sacrée question philosophique, je lui dis tu peux essayer de répondre aux cinq pourquoi en fait, au pourquoi tu cours. Et tu peux répondre, tu sais, tu connais ce jeu des cinq pourquoi, tu sais, pourquoi je cours, bah parce que je me sens bien dans mon corps, mais quoi je me
je connais pas.
Tu connais pas cette
non.
ce truc de coaching?
Non.
Tu sais, si je te dis pourquoi tu cours?
Ouais,
vas-y,
je cours,
réponds.
Ouais. J'en sais rien, parce que je cours. Parce que j'ai
non.
du plaisir à courir. Non, ok,
mais,
parce que j'ai
voilà.
du plaisir à courir.
Et
ouais.
pourquoi t'as du plaisir à courir?
Parce que ça me calme, je me sens bien. Ouais, c'est intéressant ton
Et pourquoi
truc.
Ça te calme? Pourquoi ça
c'est
te calme?
intéressant. Parce que je suis pas calme.
Oui, mais pourquoi ça te calme, ça en particulier, tu vois?
Parce que ça me fait une bouffée d'oxygène.
Voilà, bon. Et alors, si tu remontes
pas
à
mal,
5
ton truc.
pourquoi,
et donc, t'as 5 pourquoi?
tu peux remonter à 5 pourquoi. Et
ah,
en
5,
fait,
ok.
je lui posais la question, je lui disais parce que tu peux identifier les pourquoi. Et moi, je disais, par exemple, pourquoi je m'inscris à une course? C'est parce que ça me donne de la motivation, ça me force à avoir un
Ah,
objectif
c'est cool.
extrinsèque.
J'ai
Mais
noté.
le vrai pourquoi du pourquoi je cours, tu sais ce que c'est? Et
Vas-y.
là, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est la liberté.
Waouh, c'est
C'est ma
cool.
valeur fondamentale de la liberté.
C'est trop bien.
C'est-à-dire que, et c'est, si les gens vous voient sur Instagram et qu'ils se demandent pourquoi je gueule contre les chasseurs,
Non, mais t'as
c'est parce
raison.
qu'en
Mais
fait,
ça,
ils me
pour le coup,
privent
je
de
suis
ma
tout.
liberté.
Mais bien sûr, mais
Ma
t'as tout à
liberté
fait
d'aller
raison.
courir tranquillement, de dire, à tout moment, je
Mais
peux
c'est un
prendre mes
sujet, ça.
baskets et aller
C'est un
courir
sujet
en
parce que
liberté.
tu vois,
Et c'est
toi,
ma
ta
valeur
liberté.
fondamentale.
En tant qu'homme, ta liberté, c'est les chasseurs. Mais mets-toi à la place des femmes.
Ouais.
Alors, moi, j'ai cette chance de courir clairement à Vichy, j'ai pas peur parce qu'il y a toujours du monde. Mais avant, quand je courais ailleurs, bah en fait, moi, ma liberté, t'as raison, elle était sans cesse remise en question. Parce que quand t'es une femme et que tu pars courir, tu pars pas en disant quelle est ma séance, quel est mon
Je
truc. Non,
sais.
tu te dis, ok, est-ce que je vais pas me faire siffler, alpaguer? Clairement. Donc c'est intéressant ce que tu dis sur l'histoire de la liberté. Mais c'est vrai que c'est le sport, c'est le seul sport, je pense, qui nous rend le plus libre. Alors sauf quand t'habites en station et que t'as tes skis au pied, bon, c'est pareil. Mais là, pour le coup, tu mets tes baskets, tu sors, tu vas n'importe où, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. C'est quand même
Et tu
génial.
vois, ce truc-là, ce que je disais, en fait, c'est que c'est vraiment la séparation des valeurs. C'est-à-dire que il y a un moment donné, je sais que pour me motiver à une époque, je m'inscrivais à des courses. Parce que je me disais, c'est l'expression, je veux pas faire pitié, tu sais, j'ai pas envie d'arriver le dernier, j'ai envie d'être prêt pour la course, j'ai pas envie de la subir, etc. Donc ça me forçait à m'entraîner. Et donc, par exemple, après une coupure, avant une coupure, j'aurais d'abord fixé en me disant, bah, après la coupure, je prépare telle course, comme ça, au moins, motivation, ça m'oblige à me préparer, ça me fait une raison de me préparer et de faire ça. Mais la raison pour laquelle je cours tous les jours, c'est pas celle de préparer une course. Parce que à la limite, je m'en fous de préparer une course. On m'a dit, tiens, tu veux pas aller faire un 10 km à Pont-du-Château? Je dis, bah, pourquoi pas. Je veux bien y aller, mais j'y vais sans préparation, parce qu'en courant tous les jours, mais si je vais courir tous les jours, c'est pas pour préparer quelque chose.
C'est pas possible. Alors
Non.
ça, c'est intéressant aussi qu'on le dise.
C'est
On
vraiment
ne
parce
peut
que
pas
la
préparer
valeur
un...
fondamentale est importante
Bien
pour moi.
sûr, bien sûr. Ouais. Mais donc, ça rejoint l'histoire des motivations. Parce que clairement, quand on est motivé pour faire des courses, on peut pas... Enfin, alors ça, c'est très intéressant. Parce que tu vois, moi, je l'ai découvert sur ma préparation marathon, là, cette année. Je pense qu'en fait, je suis tellement intrinsèquement motivée à l'idée de courir tous les jours que je me suis auto-sabordée dans ma prépa. Parce qu'en fait, j'en ai fait trop que par rapport à ce que j'aurais dû faire, je le
Je
sais, hein,
t'avais dit
j'en
de te
avais...
reposer. Je
Ouais,
t'avais dit et je te l'ai dit de te reposer.
j'écoutais pas le coach à l'époque, c'est pour ça.
T'écoutes pas le coach. Attends, on te fait des heures de WhatsApp et tout. Et puis toi, non, mais alors, à chaque fois que tu me fais un WhatsApp, c'est en courant, hein. Et tu sais, franchement, hein, je te le dis, hein, la prochaine fois que tu me fais un WhatsApp en courant, je te dirai, va te reposer.
C'est ça. Non, mais aujourd'hui c'est ok puisque aujourd'hui je prépare plus de marathon. Mais quand j'ai préparé le marathon, mais c'est intéressant de partager cette expérience aussi, c'est qu'on peut pas préparer un marathon et vouloir courir tous les jours. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on expliquait. Le corps, elle a besoin de récup. Et nos valeurs, à mon avis, là-dessus, on est sur le même mode de fonctionnement. On a besoin de cette valeur course dans la journée pour plein de raisons. Et peu importe, elles nous appartiennent. Mais en tant que telles, c'est juste pas compatible une prépa marathon. Et je pense n'importe quelle prépa, une prépa 10 bornes, une prépa semi, n'importe laquelle. Parce qu'une nouvelle fois, on a un plan d'entraînement et que ce qui est constitutif du plan, c'est tout autant la sollicitation, la charge, la contrainte que la récupération. Et encore faut-il se le dire et se déculpabiliser avec cette histoire de récup, parce que aussi on est dans un univers où on est tout le temps coupable de se reposer, en fait. Et donc, oui, on a le droit de se reposer, oui, on a le droit de récupérer. Au contraire, quand on prépare un événement, reposons-nous, parce que c'est super important, quoi.
Soyons des coureurs slow, en fait. Mais tu sais, c'est drôle parce que, en fait, le monde va super vite. Il y a une tendance de fond qui est le slow, la slow life et compagnie, qui ne semble pas toucher le sportif, en fait.
Il y a même un truc, ouais, non, mais je le dis pas. Parce que
le triathlète n'est pas, ne semble pas être dans le slow. Non, mais bien sûr, tu as tout un tas de slow.
Vas-y.
Tu parlais bien sûr du café. Non, mais je sais. Hein.
Ouais,
non,
okay,
mais je tomberai pas dans ton petit jeu parce que là, tu essaies de me placer un truc. Donc là, je te l'enlève et tac. Et sur le coup.
Je suis d'humeur ce soir. Mais
ouais,
alors,
je vois bien. Hein. Attention, je vais te sortir les belins dans pas longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde, il y a une espèce de tendance entre des gens, on parlait de slow food, de slow life, etc., de ralentir et autres, des trucs comme ça. Et en même temps, t'as quand même on était dans un monde qui est sur la productivité, où on essaye de tout maximiser au maximum pour faire le maximum de choses.
Ah,
et,
c'est vrai, pardon.
Et en fait, dans la course, dans le sport, et on en parlait avec Denis Richer sur les histoires des triathlètes qui ne se reposent jamais, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien considérer qu'aussi on pourrait avoir un mode de course slow, c'est-à-dire d'accepter que déjà on court lentement, que on fait pas de sollicitation, qu'on n'est pas obligé d'être sur Strava en disant
c'est vachement dur ça.
Parce que j'ai vu en plus une discussion, j'ai vu une vidéo, j'ai regardé une vidéo de Anne de Bendidou qui a fait le bilan de ses sorties vélo. Ouais, et elle fait le bilan de ses sorties vélo et elle était critiquée parce qu'en disant ouais, mais ta sortie vélo, tu l'as fait lentement, etc. et tout. Et en disant enfin, franchement, j'ai fait à 18 à l'heure, mais il y avait le dénivelé, il y a ça. Et puis,
elle n'a pas besoin de se justifier. Hein.
Osef,
quand tu te justifies, c'est déjà trop tard. Quoi.
Voilà, c'est ça. Il n'y en a rien à dire sur la justification, etc.
Ouais.
Et il y a plein de sujets sur lesquels elle intervient. Et te parlais d'ailleurs du courir toute seule, les problèmes des femmes,
mais
etc.
C'était elle,
la vélo,
avec
etc.
La vidéo. Ouais,
il y a plein de trucs sur ce sujet-là. Mais là où on n'aura pas à juste se justifier et on n'a pas à se dire, c'est pas parce que moi, et tu regardes des fois, j'ai des sorties, franchement, en vitesse, mon kilomètre, je le fais en 7 minutes 34, des trucs comme ça et tout, mais je suis pas dans la recherche de ça. Et il faut que ceux qui courent lentement se déculpabilisent totalement de ce truc-là.
Il y a un truc important, c'est que c'est d'autant plus important et difficile d'ailleurs de courir lentement quand on est au départ débutant et qu'on a une VMA, on en a déjà parlé, je crois, je suis pas sûre, mais si t'as une VMA à 12, bah, courir à 70% de ta VMA, c'est courir proche de la limite entre, je le rappelle, hein, la bascule biomécanique, on est fait pour ça en tant qu'humain, de la marche vers la course, qu'on appelle la motricité spontanée, à 7,2 km/h, on marche, à 7,3 km/h, on court. Donc, biomécaniquement, on est conçu pour que ça fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un coureur au départ avec une VMA plus lente, bah, c'est vachement dur de courir lentement et on n'y peut rien. Et moi, j'aime bien, du coup, faire des fractionnés course-marche. Tu vois, parce que sinon, t'as la fréquence. Tu peux pas courir en dessous du 8, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas possible, quoi. N'importe quel humain, autant on peut marcher vite, on peut aller faire une motricité spontanée mais l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, t'as tout à fait raison de déculpabiliser là-dessus et de dire que c'est OK, on a le droit de courir doucement. D'autant plus si on fait du dénivelé. Je veux dire, enfin, s'il y a bien on sait très bien que dans les trails, il y a pas de référence chronométrique. Et heureusement, alors, si cette année, on a parlé du TMB, parce que OK, j'allais dire c'est roulant, c'est pas roulant, mais je veux dire non mais
les conditions étaient exceptionnelles. Et
non mais les chemins sont roulants,
c'est-à-dire
que tu prends un chemin à l'UTMB, c'est roulant par rapport au GR20 par exemple, tu vois. Ça reste roulant pour du trail.
Une grande partie, on dit pas tout, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie où il y a quand même des grands chemins, des trucs assez roulants.
Ouais, mais même quand c'est du petit chemin, c'est vachement praticable en fait. Enfin, c'est tellement pratiqué justement par les gens utilisés que bref, et ce que je veux dire c'est que bon, en trail on fait pas des références comme ça chronométriques, ça prouve bien que le dénivelé il vient impacter la logique de temps, donc bien sûr que c'est complètement une fausse histoire de comparer. Je rebondis sur la suite de notre idée, donc je trouve que ça a du lien avec l'idée de deuxième facteur de l'engagement. Premier facteur, on a dit, c'est la motivation. Là, on a parlé de la question in fine, du plaisir. Et ben, en fait, le plaisir est un déterminant de la motivation. Et donc, le plaisir est un déterminant d'engagement. Donc, ça rejoint un petit peu ton pourquoi. Parce que finalement, quand on va chercher un pourquoi, on va toujours chercher du plaisir. C'était dans un des épisodes où tu disais que finalement, l'être humain, il est motivé par trois choses. Un, par fuir la douleur. Deux, par le bien-être. et trois par le fait de se reproduire. Donc effectivement, quand tu cours, tu payes tout, ça faut te reproduire. Mais... Donc on va limiter
ça
la
dépend,
douleur.
Ça dépend, j'ai vu des gens sur les chemins qui n'étaient pas très habillés. Tu vois, je ne sais pas si c'est adepte de slow, de ce dont tu parlais tout à l'heure, mais en tout cas, j'en ai croisé sur les chemins.
J'ai de l'expérience aussi là-dedans, enfin j'ai des anecdotes, mais bon, peu importe.
Pas très habillé, tu sais, le matin, et il y a des endroits où je cours, des fois il y a des traces à tout, de bon, je me dis bon, tu sais...
Donc, je reviens à mes moutons, parce que là, tu essayes de me distraire.
Oui, je sais, je fais tout pour distraire. Tu sais, je suis le mauvais élève, moi, dans la classe, j'étais un cancre à l'école.
Allez, non, allez, j'adore ta manière d'être cancre. À l'entraînement, c'est difficile de se faire mal. D'ailleurs, je crois que c'est Bruno Hubi hein, qui en parle. Il dit qu'on on n'a jamais les mêmes intensités et on se met jamais dans le même rouge qu'en compétition. Donc, concrètement, à l'entraînement, on va essayer d'aller chercher du plaisir quand même. Et donc, il faut revenir à ces logiques de plaisir et essayer d'identifier ce qui, dans la pratique de la course à pied ou de notre activité en général, nous fait plaisir. Et ça peut être totalement différent d'une activité à une autre. Et ça peut être totalement différent au sein d'une même activité selon les modes de pratique, je m'exprime. En course à pied, moi j'ai l'impression que finalement mon plaisir, il est simplement, comme tu dis, d'être dehors, de défouler, etc. Et en fait, j'ai pas du tout ce plaisir-là quand je suis sur le vélo, par exemple. Parce que sur le vélo, étant donné que c'est ce qu'on appelle un sport instrumentalisé, on a un instrument qui fait que on va devoir avoir un aspect technique. Pédaler, c'est beaucoup plus technique. La position qu'on va avoir sur le vélo, elle est beaucoup plus technique pour moi que de courir. Tu vois, parce que la position sur le vélo, elle n'est pas la même en côte, en descente, en courbe, etc., etc. Et quand je disais sur les formes de pratique aussi, je n'ai pas le même plaisir à courir en trail que sur la route, en VTT que en vélo de route, sur des cols, sur des choses comme ça. Donc en fait, on voit bien que le plaisir, il est aussi dépendant des formes de pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est important d'identifier les sources de plaisir pour aussi identifier les sources de pratique, les formes de pratique, pardon, qui nous intéressent et qui nous suscitent plus d'envie que d'autres.
Ouais.
Ça, je pense que c'est vraiment important parce que en ayant identifié ça, eh ben, on va davantage s'orienter vers des pratiques qui nous font, entre guillemets, plaisir, alors que parfois, on le subit. Et aussi, dans des baisses de motivation, dans des moments de baisse de motivation, bah, c'est bien de retourner vers des pratiques qui nous font plus plaisir que d'autres. Et en fait, parfois, le plaisir, on s'en rend pas forcément compte. Parfois, le plaisir, il est inconscient, au final. C'est-à-dire que si on se questionne pas sur, concrètement, qu'est-ce qui nous fait plaisir, bah, on peut passer à côté, quoi. Et ça, ça me paraît important. Troisième point sur lequel je voudrais revenir, en ce qui concerne l'engagement, troisième déterminant de l'engagement, c'est la question du sens. Alors, on en a beaucoup parlé tous les deux, Bertrand, en off. Moi, j'ai découvert, alors... quelque chose, enfin, c'est un auteur, en fait, qui a posé un concept qui s'appelle le curriculum conatif. Alors, le curriculum, globalement, on parle de curriculum vitae, hein, c'est notre parcours de vie. Donc, le curriculum, ça se traduit littéralement par la notion de parcours. Conatif, parce qu'en fait, ça vient de la question du sens. C'est ce qui nous pousse à agir. La conation, c'est ce qui nous pousse à agir.
Ça tombe bien que tu me le dises, parce que j'ai fait une petite recherche tout à l'heure sur Google pour être sûr de savoir de quoi tu me parlais. Mais j'ai posé la question pour dire qu'il fallait repréciser quand même le sens exact de ce mot, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de le définir.
Donc en fait, l'auteur à l'origine de ça, alors moi dans le monde de l'EPS, c'est Gilles Bugdian, en fait, qui a initié une réflexion sur le fait que, je sais pas comment c'est venu, son truc, mais il s'est dit, ok, concrètement, puisque en tant que pratiquant, on passe d'un statut d'ultra débutant à confirmer, enfin à débrouillard, puis confirmé, puis expert, bah, y a des chances que dans chacune de ces étapes, on va attribuer un sens particulier à la pratique qui est la nôtre. Et donc, il s'est dit, OK, on va chercher à comprendre globalement les préoccupations, les types de préoccupations des engagements de chacune des personnes selon les étapes. Et donc, en fait, bah, il en est venu simplement à ce qu'il a appelé le curriculum conatif. Il a mis en évidence 5 grandes étapes qui correspondent à 5 étapes qui vont du débutant à l'expert. Et en fait, dans le même temps qu'on progresse en termes de niveau, on accorde un sens différent à notre action. Je rentre dans un tout petit peu de détails parce que je trouve ça intéressant. Et l'idée, alors essayez de vous replonger tous en écoutant là ce que je vais expliquer dans une activité que vous avez commencé récemment. Moi, j'aime bien faire ça quand je le présente à mes étudiants notamment. Un truc qu'on a commencé en tant qu'adulte, parce que souvent on a plus de souvenirs que quand on l'a fait en tant qu'enfant, parce que souvent en tant qu'enfant on subit, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage incident quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on apprend à notre insu, on apprend plus par essai-erreur, par expérience, etc. Donc essayez de retrouver une activité dans laquelle vous avez été débutant il n'y a pas très longtemps, mais ça peut être une activité qui n'est pas forcément une activité physique. Hein. Ça peut être d'avoir appris à faire une recette de cuisine avec un geste particulier. Plutôt une activité quand même globalement assez, assez manuelle, parce qu'on va voir que globalement, y a la mise en jeu du corps qui est importante, la mise en jeu physique de la personne qui est importante. Mmh. Donc la première étape, en fait, quelle que soit... ça marche dans tous les domaines, hein, malgré tout, ça marche dans tous les domaines. La première étape, elle est ce qu'on appelle émotionnelle. Globalement, imaginez-vous, vous ne savez pas nager, je vous jette dans une piscine, c'est émotionnel, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'eau partout, et on le voit chez les élèves débutants, hein. C'est la panique, quoi. Donc, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Globalement, notre système nerveux, enfin, tous nos sens sont saturés. Parce qu'en fait, on est totalement saturé d'informations, il n'y a que des informations nouvelles. Qu'elle soit physiologique, perceptive, visuelle, auditive, tout notre système de prise d'information, il est totalement saturé. On ne sait pas quelle est l'information qu'il faut prélever, comment les discriminer et comment les organiser. Donc, on est totalement dans l'émotion. La seule question qu'on se pose, c'est une question de type, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour survivre à cette situation? On est dans une logique vraiment de survie. Donc, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Et notamment, on est un peu sur une logique de même pas de savoir comment le faire en fait. On est vraiment dans c'est quoi le deal là, c'est quoi l'objectif quoi presque. C'est quoi comment on s'en sort quoi. Tu t'as trouvé un truc toi où t'arrives à faire le parallèle ou tu non. Tu suis religieusement ce que je te raconte?
Oui, tu sais, je suis l'élève qui s'est endormi contre le chauffage au fond de la classe.
Ce rêve, c'est pas possible.
Si, mais j'étais cet élève-là. Et tu sais, même en première, j'étais l'élève qui jouait au basket pendant que la prof parlait dans la classe.
Ce rêve.
Moi, j'allais jouer au basket. Non, c'est vrai que j'étais un cancre à l'école. Personne ne le croit, mais c'est vrai que j'étais
un
cancre.
Non, mais t'inquiète, parce que moi aussi, donc, j'ai fait pire que toi. Donc, t'inquiète pas.
Ça j'ai joué aux jeux vidéo dans
ça
la
ne m'effraie
classe
pas.
Et tout. Enfin,
je pense qu'on a toujours été le cancre de quelqu'un, de toute façon.
Ouais, moi, j'étais le cancre de toute ma classe.
Ouais, mais moi aussi, t'inquiète pas, on est deux. On est deux.
Donc, je viens de me réveiller, je suis en train de penser à mon truc.
Bah oui,
attends, je suis en train de regarder.
Je t'ai fait ça et je t'ai réveillé, tu vois.
Ouais,
donc ça veut dire que je suis une prof lucide sur la capacité d'attention de mes élèves.
Ouais, t'as vu que t'avais l'élève au fond, là.
Il y a du boulot. Bon, donc la première étape, elle est...
Émotionnel.
Deuxième étape.
Voilà, je vais me noyer.
Ouais, c'est ça. Deuxième étape, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment là maintenant, une fois que globalement on a compris un peu le but du jeu, qu'on a compris que de toute façon on n'allait pas couler, on se dit ok, concrètement comment ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, l'idée c'est il y a des questions et des hypothèses sur tiens, est-ce que si je tentais ça, ça marcherait? Est-ce que si je tentais ça, ça marcherait? On est un peu sur ce qu'on appelle une logique hypothético-déductive. C'est-à-dire, je fais une hypothèse et j'en déduis si ça peut fonctionner ou pas fonctionner. Ouais, c'était un gros mot, là. T'es réveillé, du coup.
Hey, madame, vous allez un peu vite, là.
Alors, l'idée, c'est un peu l'essai-erreur. C'est un peu
ouais,
de tâtonner,
ouais,
tu vois.
C'est l'essai-erreur, ouais.
L'idée, c'est on essaye un truc, puis on voit. Mais ça rejoint un peu la théorie behavioriste hein, dont on a déjà parlé.
Ouais.
Ok, l'histoire du conditionnement, ça marche, ça marche pas. Mais bon, on est tout seul vis-à-vis du truc et c'est compliqué. On n'a pas de feedback, donc c'est compliqué. Une fois que on a un tout petit peu commencé à comprendre, on a fait des essais et ça a fonctionné. On s'est dit ah tiens ça a marché. Donc on passe dans la troisième étape. C'est une étape qui est dite technique. Parce qu'en fait, nous, on a tenté des choses avec nos propres ressources, avec nos propres armes, et on se dit, mais attends, concrètement, là, j'en vois autour de moi où il y a des machins, il y a des pros, comment ils font, eux? Et donc là, on se place dans une logique d'efficacité. C'est-à-dire qu'on sait faire, globalement, on peut s'en sortir avec notre technique, ça peut fonctionner, mais on n'est pas efficace. Ou alors, on n'est pas efficient. Tu sais, c'est le gars qui essaye de nager, et puis en fait, il n'a pas d'appui,
ouais.
Et puis,
ouais, c'est moi, quoi.
C'est pas l'efficacité, ça.
Je bats des jambes, mais ça, mes jambes, j'avance pas. Je bats des jambes, mais je recule.
Et tu vois, ça, c'est un bon exemple, parce que moi, j'ai appris la natation très jeune, et je pense totalement à mon insu. Et je suis très en difficulté pour expliquer plus la natation aux enfants que, par exemple, d'autres sports dans lesquels je suis passée par toutes ces étapes.
Ouais,
c'est-à-dire que moi, à l'âge adulte, en STAPS, j'ai eu la chance de vivre plein de sports. Donc, en fait, c'est vrai que c'est plus facile pour moi. J'ai découvert des sports dans lesquels j'avais absolument jamais fait, quoi. Par exemple, du judo, du rugby, des trucs comme ça. Et je suis passée par tout.
Tu fais du rugby, toi ?
Ouais, je fais du rugby, mais c'était un... On en parle pas. Alain, si tu m'écoutes, tu sauras. En fait, en plus, ce qui était drôle, c'est que j'étais très nulle et j'étais pas grosse, donc c'était compliqué. Et finalement, ce prof qui devait me détester parce que je faisais tout pour jamais avoir le ballon est devenu mon directeur de thèse. Donc c'est quand même une belle histoire. Voilà. Bref. Je lui partagerai ce clin d'œil, il sera content. Et du coup, Donc, moi, je suis passée par ces étapes. Et notamment, alors, rugby, je pense que je suis pas allée jusqu'à l'étape
Non, mais
technique, tu
j'imagine
vois.
trop l'étape. Attends, attends, ça y est, l'étape
L'étape
fonctionne.
technique, moi,
Non,
j'y étais pas en rugby, tu
l'étape émotionnelle, je l'ai trop. C'est, imaginons la
vois.
scène,
Oui, mais
Laure,
oui.
on lui file le ballon, et tout d'un coup, il y a 15 personnes, 15
Je le
joueuses qui lui
lâche.
foncent dessus, qui veulent absolument lui piquer le ballon, et elle
Ah
se
oui,
dit,
non, mais...
ouh, comment je le garde, comment je le garde, comment je le garde. Et
Non, non,
là,
c'est genre, non,
effectivement, je
j'en veux
comprends que
pas.
dans l'étape fonctionnelle, le truc c'est, hop, je lâche pour éviter qu'elle me plaque,
Mais
qu'elle me
oui,
saute dans
mais
la boue
c'est la
dessus.
logique de tous les débutants en sport co. Tu sais, on parle en sport co, on
Je veux
parle
pas
de
le ballon, je veux pas le ballon.
deux logiques de débutants en sport co. On dit effectivement le, alors surtout en sport, en rugby, on lâche le ballon parce qu'on a on a trop peur et on s'en dépossède. Donc
Ouais.
il n'y a pas que moi, mais il y a aussi la logique de grappe où en fait on vient tous sur le ballon parce qu'on pense que c'est le truc sur lequel il faut qu'on aille quoi. C'est plus étape fonctionnelle. Mais moi, l'étape technique, tu vois, en rugby, je l'ai même pas vue, quoi. En fait, tellement j'étais effrayée, je ne jouais pas, quoi. Tu vois, c'était compliqué pour moi. Bref. Et donc, au-delà de ça, donc dans cette étape fonctionnelle, c'est vraiment l'idée de voir et de comparer avec ce que les autres font.
Ouais, attends, non, on est à l'étape
Vas-y.
technique, pas fonctionnelle, là. Si.
Ouais, excuse-moi,
C'est
technique.
moi, pardon. Et
Oh,
madame
t'es
la
un bon
prof,
élève, toi, tu suis. Eh, franchement, bravo, je vais te donner un bon point, là.
Arrête,
Donc,
arrête. Avec ces vieilles théories de l'ancien temps,
mettons, mettons,
comportementaliste et compagnie, sur donner
mettons,
des bons points aux gamins,
mettons, mettons,
motivation extrinsèque et compagnie d'avoir un bon point contre une bonne réponse, excuse-moi, mais
mettons.
franchement, c'est dépassé, ça.
Bien, bien. Donc, étape technique. À ce moment-là, on cherche à comparer notre technique avec des techniques plus efficaces, avec des techniques un peu plus expérimentées, etc., etc. OK? Et donc, en fait, nous, en EPS, on parle de ce qu'on appelle dans notre jargon, prof de PS vont comprendre, c'est la question des savoir-faire ou des contenus d'enseignement ou des critères de réalisation. C'est-à-dire que c'est seulement à cette étape que, quand on progresse un peu, on s'interroge sur ce qu'il y a à faire pour bien faire.
Ouais.
Mais on peut prendre un exemple qui est intéressant avec ton histoire de gravel et de déclip. Tu sais, le fait de déclipper, on y revient, tu vois, parce que tu te moques de moi en
Tu
rugby,
parles
mais
de mes
moi,
pédales là ou quoi?
hein?
Non
Ouais,
mais.
de déclipper la pédale.
Ouais.
Au début, tu vas tomber. Tu vas être dans l'émotion. Tu vois, c'est forcé. Il y a forcément un moment où tu vas tomber.
Attends,
Ensuite.
au début, je vais voir un stop et je vais me dire, comment je fais pour me défaire de mon vélo? Comment je fais pour me défaire de mon
Alors, non, là, tu
vélo?
seras déjà dans l'étape fonctionnelle.
Ah
Tu
ouais,
vas
je serais même
déjà
pas
te
dans
dire
l'émotionnel, je serais déjà dans
si.
le fonctionnel.
Ouais, si, tu seras dans l'émotionnel. En fait, t'es dans l'émotionnel quand vraiment. L'émotion, elle est dans une situation où tu peux rien anticiper. Là, t'es déjà dans l'anticipation de la situation. T'arrives au stop, t'es en train de dire. Et t'es en train. Bon, globalement, l'étape fonctionnelle, c'est ça. C'est comment je déclippe. Ensuite, l'étape technique, c'est OK, j'arrive à déclipper, mais c'est pas possible. Il y a un autre moyen de déclipper plus efficacement que le mien, quoi.
D'ailleurs,
Tu
un
vois?
truc plus facile que
Il y
ça,
a un
parce que c'est
truc
la
mieux que
galère.
ça, quoi. Et d'ailleurs, oui, t'as ceux qui déclipent vers l'intérieur et ceux qui déclipent vers
Ouais,
l'extérieur.
j'ai vu les
Après,
astuces sur YouTube, j'ai regardé sur
t'as
YouTube en fait.
aussi le petit détail de la souplesse de la cale. Tu peux
Ouais,
régler ta cale aussi, tu
ouais.
sais.
Parce que j'aurais trouvé la bonne clé Allen, tout ira mieux.
Mais ça, c'est important. Ça, c'est un conseil important. Et après, tu as l'étape contextuelle. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tu sais faire, mais dans des conditions stabilisées. Et à partir du moment où les conditions, elles évoluent, les circonstances sont toujours importantes, de toute façon. Donc, globalement, l'idée, c'est contextuel. C'est vraiment comment je peux être plus efficient, plus efficace, et comment je peux m'adapter un petit peu plus à chacune de ces situations. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de réinterroger ma technique à un instant donné par rapport à la technique d'un autre ou dans un autre contexte. Et enfin, il y a la cinquième étape. Alors là, clairement, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de sports, c'est l'étape de l'expertise. C'est comment faire alors que finalement, tout fonctionne, mais que quel est le petit détail en fait? Quelle peut être l'innovation et quelle peut être la manière avec laquelle je peux encore plus être performant et innovant? Donc c'est vraiment ben là c'est le geste sportif, l'exploit sportif, le voilà, c'est on est à la recherche de la performance et du meilleur truc. Et donc ça, ce sens-là qu'on accorde à notre action, eh ben en fait, il est important dans l'engagement parce que si on arrive à simplement se dire OK, on a vachement rigolé sur le curriculum cognitif, mais
C'est
si on est
sérieux quand même,
capable.
c'est des vraies recherches. Non mais
Ouais,
disons-le, c'est des vraies recherches
c'est vraiment sérieux,
et tout le
voilà.
monde s'est reconnu dans les différentes étapes, etc.
De
quoi.
tout,
Ça,
mais
vraiment quoi, dans
de
toutes
toutes
les
tes
étapes.
expériences de vie, de toutes tes expériences de vie, même les nouvelles, des expériences très récentes, très nouvelles, dans lesquelles enfin, tu vois, on y est.
Oui, mais même dans la pâtisserie, je veux dire, il faut te dire, il y a tout un tas de gens, tu
C'est à
dis,
ça
tu
que je
dois faire un gâteau
pensais.
d'anniversaire pour ma fille,
C'est à ça que je pensais.
et comment je vais faire? Et puis petit à petit, on va chercher tout. Je pourrais passer par toutes les étapes pour arriver à faire mon gâteau d'anniversaire. Non, mais c'est vrai.
Cet épisode est mythique.
Ouais.
C'est
J'en ai plein des
compliqué ce
exemples à la
soir.
con d'apprentissage, tu vois, c'est comme.
Ah, vas-y, parce que
Bah,
moi
par
j'arrive
exemple,
plus
il n'y a pas longtemps, j'ai décidé que j'allais apprendre l'harmonica. Et bah, Ça paraît pas, mais sortir une note avec un harmonica. Et tu sais pourquoi? Et je vais te dire un truc, parce que ça, c'est lié au sens. Et là, c'est, en fait, j'avais dit, je voudrais apprendre la musique, parce que je sais pas jouer de la musique, et je voudrais apprendre la musique. Et au début, on m'a dit, mais qu'est-ce que je peux jouer? Et quelqu'un m'a dit, une bonne idée, il m'a dit, tu sais, l'harmonica, par rapport à ta, au fait que tu cours, tu pourrais le mettre dans ta poche, et quand t'es sur ta petite montagne, tu pourrais jouer.
Non, non, des bonnes idées, tes potes.
Et moi, je suis, tu sais, dans l'idée, tu sais, de me dire, tu sais, la musique de Lonesome Cowboy qui joue là-haut, Far West, sur le haut de sa montagne, et ben, je me voyais super bien. Et non, mais dans le sens que j'ai encore de trucs, ma liberté, c'est-à-dire, je prends le petit harmonica dans la poche, je parcourir, et hop, et le matin, là-haut, sur ma petite montagne, je joue un petit morceau comme ça, et j'ai le plaisir là-dedans. Et ben, franchement, c'est ce qui m'a permis de démarrer. Le seul problème, c'est que quand tu me mets dans l'étape, tu me donnes l'harmonica dans les mains, etc., je dis, mais comment je sors un son potable avec ce truc-là. Et tu sais ce que ça fait? Parce que l'émotion, elle est un truc. Ça me rappelle mes émotions de gamin quand on a me forcé à vouloir faire du violon et que je n'ai jamais, j'ai le sentiment de n'avoir jamais sorti la moindre note et qu'on m'a dit, monsieur, faudrait, enfin, jeune homme, ou je sais pas comment, on m'a dit, faut arrêter ce truc-là, alors que j'avais souffert pendant 2 ans sur un violon, fait du solfège, etc. Et tu sais, j'ai revécu cette émotion-là. Et sinon, faut trouver aller plus loin, faire truc, etc. Tu vois, mais. C'est vraiment, tu vois, c'est, je pense que tout le monde a des expériences de toutes ces étapes-là.
Bien sûr,
on les a
mais
tous
c'est génial. Ce truc est vraiment réel. Nous, on le voit en EPS. Alors, dis-nous, parce que là, je rebascule dans ma casquette prof d'EPS, qui était mon premier métier. On le voit avec nos élèves au quotidien. C'est-à-dire que cette étape émotionnelle dont on rigole, de l'élève qui balance le ballon, et c'est très bien, c'est tombé sur moi, il n'y a pas de problème, c'est exactement ça. C'est-à-dire cette étape, même en danse, quand on demande aux élèves pour la première fois de danser devant les autres, c'est la panique totale. Enfin, donc dans toutes les situations et quelle que soit la situation de vie, on en a rigolé, mais c'est la vérité. Dans toutes les situations de la vie, on passe par cette étape émotionnelle, puis fonctionnelle, etc. Et franchement, moi je trouve que ce curriculum est intéressant. Pourquoi on en parle ? On en parle parce que c'est un des déterminants de l'engagement et que l'objectif aussi quand même de notre épisode, c'était aussi de montrer que pour être compétent, il faut déjà s'engager. Et pour s'engager, il y a des conditions. Donc je les rappelle, hein, les conditions de l'engagement, c'est d'identifier le sens. Quel est le sens que j'accorde à mon action ? Il y a un auteur que j'aime bien, De Velay, qui dit que le sens, c'est la combinaison du désir et de l'intérêt. Bah, c'est un peu ça. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de venir voir qu'est-ce qui me procure du désir ou du plaisir, ou du déplaisir hein, d'ailleurs, et qu'est-ce qui me procure de l'intérêt ? Quel est mon intérêt à court, moyen, long terme à pratiquer ? Et donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a la question de la motivation, on en a parlé, donc du plaisir, je l'ai mis avec le désir. Il y a la question des croyances. Qu'est-ce que je crois ? Et là, il y a des croyances sur soi et des croyances sur ce que je fais. Donc, il y a la question du sentiment de compétence dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. C'est la manière avec laquelle je me perçois comme étant compétent. Et puis, il y a la manière avec ce que je crois, non pas de ce que je peux faire, ça c'est un peu le sentiment de compétence, mais ce que je crois de ce qu'est cette activité, comment je me la représente. Il y a des gens qui me disent, mais un marathon, c'est pas possible. Parce que d'emblée, ils se représentent ça comme quelque chose comme l'Everest. Alors que, et il y a des gens pour qui l'Everest, c'est rien d'ailleurs. Donc, en fait, c'est la croyance que l'on se fait et de nous. Et de ce que l'on vise, et notamment la croyance, c'est aussi l'écart entre ce qu'on pense pouvoir faire et ce qu'on fait réellement, quoi. Donc voilà. Et donc l'ensemble de ces conditions permettent à un individu de s'engager à court, moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que l'engagement, c'est la base de l'apprentissage. Parce que pour apprendre, on en a déjà parlé, il y a une des conditions fondamentales de l'apprentissage, c'est la répétition. Et donc, si on veut apprendre, il faut pouvoir répéter dans le temps. Et donc, si on veut répéter, clairement, on comprend bien que plus on sera investi, plus on sera motivé, plus on sera engagé, plus on sera tout ce qu'on veut, plus on continuera d'apprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la deuxième condition aussi de l'apprentissage, et on va retomber sur nos pieds, tu vas voir, c'est la question de l'individualisation, de ce que j'appelle le décalage entre les ressources de l'individu et les contraintes qui pèsent sur lui. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le monde du sport, le décalage optimal. Alors c'est Linda Halal qui a posé ce concept dans les années 90, aujourd'hui tous les profs de PS le mettent et en parlent. Globalement c'est quoi ? Il est optimal, c'est un décalage, parce que c'est un décalage entre un niveau de contrainte et un niveau de ressource qui est nécessaire pour que l'individu apprenne, progresse. On l'a dit, hein, pour mobiliser les ressources, il faut que le système de contrainte qui pèse sur l'individu soit temporairement supérieur à son niveau de ressource. Okay ? Pourquoi on nous dit qu'il est optimal et qu'il se doit d'être optimal ? Bah, en fait, il se doit d'être optimal pour deux raisons. S'il est trop important, on en a déjà parlé, on va aller sur du surentraînement. Parce qu'on va induire une charge, une contrainte, qui va être bien trop importante pour ce que l'individu peut absorber à un moment donné. Ça rejoint la question qu'on expliquait tout à l'heure sur la reprise. Si je reprends trop fort, ben y a un risque de me blesser, de ne pas encaisser la charge. Mmh. Mais il est optimal aussi parce qu'il faut quand même que cet écart, il soit quand même... Il y a un niveau bas aussi, donc il est optimal dans une histoire de mesure, grande mesure, petite mesure. Si mon niveau de sollicitation il n'est pas assez important, bah, il y a un risque d'ennui, de désengagement et de désintérêt. Mmh. Si je me mets un challenge qui n'est pas suffisamment challengeant, il y a de grandes chances que je me désengage.
Ouais.
Tu vois, c'est un peu comme si, peut-être, je pense, quand tu cours tous les jours, toi, tu as ton défi, de te dire un jour de plus dans mon défi. Et je suis sûre que ça joue dans la stimulation, tu vois, la base de ton décalage optimal. Alors que, tu vois, moi, je cours tous les jours parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe, mais je ne m'essaie pas donner ce défi et c'est trop bête. Et je te l'ai dit d'ailleurs le jour où j'ai rompu le... Tu sais, je t'ai dit, bah, je me suis fait une entorse. Et je t'ai dit, j'ai pas pu courir et tout, j'avais trop mal. Et je t'ai dit, moi, peut-être un truc qui m'a pas tenu, peut-être que même avec l'entorse, j'aurais pu faire 1 kilomètre si j'avais eu ton défi et que je m'étais matérialisé le défi, tu vois, rien que pour pas briser le défi. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire deux choses. Je veux dire que, un, ton défi te permet d'avoir une contrainte, au moins psychologique, minimum, mais aussi, ton défi, il te constitue, a priori, une grande motivation extrinsèque. Mmh. Et donc, on voit bien que la combinaison de ces deux facteurs te permet de rester engagé et donc de rester dans ce processus. C'est assez intéressant, je trouve, de l'analyser comme ça aussi.
Ouais, et c'est vrai qu'en plus, c'est une sorte de défi. J'ai testé par le passé des défis qui se sont arrêtés et c'est extrêmement compliqué de reprendre après. Par exemple, à une époque, il y avait un défi de faire des pompes. Je faisais des pompes tous les jours et au bout de... Je sais pas, au bout d' 1 an et quelques, mon défi s'arrêtait par force des choses. Et ben, j'ai jamais repris mon défi de faire des pompes tous les jours. Jamais. Enfin, franchement, à chaque fois que je reprenais, je disais, ouais, enfin, ça sert à rien et tout.
Ça n'a plus de sens.
Ça a perdu le sens. Ouais, non, c'est vrai.
Ouais, je pense, ouais. Et c'est vrai que je pense souvent à toi, au fait que tu cours tous les jours et que tu matérialises ça. Parce que il y aura forcément, je te le souhaite pas, mais à un moment donné, un jour, où ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais tu vois, le truc.
Je sors la capuche, je me mets en mode.
Non, mais il peut t'arriver n'importe quoi, je te le souhaite
bien
pas.
Bien sûr, mais tu sais, mais moi-même, je l'envisage, on m'a posé la question.
Ah, hein,
je me chope le Covid, qu'est-ce qui se passe?
C'est clair.
Je me blesse, qu'est-ce qui se passe?
Tu reprends ou pas derrière?
Bah, en fait, je ne peux pas te dire, parce que je n'ai pas de plan. Je n'ai pas ce plan-là, pour l'instant. Et je me dis. Enfin, franchement, le but, c'est surtout de pas y arrêter. Bon, voilà le truc. Mais est-ce que je reprends derrière ou pas? Je pense que j'aurais beaucoup de mal à reprendre parce que je l'ai vécu sur mon histoire des pompes, je l'ai vécu sur mon histoire d'écriture, je l'ai vécu sur l'histoire du podcast en quotidien à une époque où, tu vois, où ça devient plus compliqué. Je l'ai vécu sur plein de défis où je sais que une fois que t'as coupé le défi, eh ben alors je sais qu'il y a l'histoire du Joker. Moi, j'utilise le Joker en disant si je l'ai fait un jour, que je rate un jour, que le lendemain je le fais. On peut considérer que je suis dans la poursuite, sauf que dans ce défi-là, je suis vraiment dans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est vrai que je sais que le jour où ça s'arrêtera, il y a des grandes chances que ça ne reprenne pas. Il faudrait que je me trouve un autre défi, tu vois.
Non, mais t'as raison, c'est bien ton histoire de Joker. Moi, j'adore. Je trouve ça génial, parce qu'au final, on n'est pas des machines non plus.
Bah non.
Franchement,
on est plus évolué qu'une machine.
C'est impressionnant déjà ce que tu fais.
On est beaucoup plus évolué qu'une machine. Mais tu sais, regarde, toi tu vois mon affiche derrière, tu sais, mon petit affiche avec les smileys.
Ouais.
Et elle faisait partie des trucs, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai une affiche derrière moi. C'est la première année, c'est-à-dire que j'avais des ronds et à chaque fois je faisais un smiley avec le kilométrage et le sens, tu m'as perturbé, avec le comment je m'étais senti dans cette sortie.
Moi maintenant je te perturbe.
Voilà. Et en fait, je faisais des smileys, un jour un smiley qui fait la gueule, un jour un smiley qui a le sourire, etc. Et je faisais ça et tous les jours je le remplissais. Et peut-être que pour certains d'ailleurs, le fait de cocher la case, parce que je vois sur ceux qui sont sur les challenges,
là, c'est
etc.
Les bullets,
du mois de janvier.
Les journal bullets là, comme ils appellent ça maintenant.
Le bullet journal. Ouais.
Oh,
mais tu sais, moi je suis un adepte du bullet journal, je m'organise que par du bullet journal. J'ai mon sommeil comme ça qui est mis dedans, j'ai mes applications pour surveiller mon alimentation, pour surveiller mon hydratation, tu sais.
Et dans le bio hacking.
Mais je suis dans le biohacking avant même que le biohacking ait été inventé. Enfin, a été fait parce que j'ai un vieux livre sur la quantification, ce qu'on appelait le quantified self à une époque, qui était justement sur une technique de biohacking, de surveillance de ce qu'on faisait. Parce que ça m'a toujours intéressé. Moi, ça fait des années que j'avais un bracelet Fitbit pour surveiller mon sommeil, mes pas, etc. C'est ce qui m'a aidé à perdre du poids d'ailleurs, hein, cette histoire des 10 000 pas. On pourrait en revenir dessus, mais ces mesures-là, pour moi, m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, donc ça c'était la parenthèse. Le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Et je me trouverai autre chose, tu sais, jouer un peu d'harmonica tous les matins.
C'est triste, là, on finit l'épisode sur une petite note triste. Alors,
mais t'as fini, j'ai pas fini. Je crois que t'avais plein d'autres trucs.
Non, j'ai pas fini. En fait, là, on a parlé des conditions de l'apprentissage. Ouais. Et donc, on a dit que finalement, on avait deux paramètres. On avait le paramètre, et tu vas voir comment je vais retomber sur les pieds de la question. On avait le paramètre répétition et on avait le paramètre contrainte, décalage optimal. Et en fait, si on combine les deux, et ben en fait, c'est la progressivité. Pourquoi ? Wow. Parce que, eh ouais, t'as vu ?
C'est beau. Oh, tu sais,
t'as
d'un
vu,
coup,
j'avais pas pensé au début.
Ah, elle est trop forte et tout !
Non, c'était pas... Allez, arrête, tu vas me mettre au rouge. Pourquoi ? Parce
personne
qu'en fait,
te voit.
Ouais, parce que la contrainte, ouais, c'est vrai, c'est bien d'être rouge quand tu fais un podcast. La contrainte, puisque notre niveau de ressources, alors c'est dommage parce qu'on voit pas pour le coup, mais globalement, je fais un schéma avec mes mains.
Imaginez que Laure est en train de bouger un bras vers le haut, un bras vers le bas.
Quand la contrainte, en fait, quand notre niveau de ressources va augmenter, ouais. Il va falloir nécessairement remettre de la contrainte, donc réaugmenter le décalage et recréer un nouveau décalage optimal. Et voilà. Donc on voit bien quand on va être sur une sorte de pyramide qui va monter, et donc on va bien être sur une logique de progressivité. Et donc on voit bien que finalement, la progressivité, elle peut s'envisager dans différentes temporalités, bien sûr à une échelle d'un cycle, que ce soit un microcycle ou un mésocycle. Donc on va envisager une progressivité qui va globalement vers le haut, en acceptant le fait qu'il y ait des coupures. Mais aussi sur un macro-cycle, c'est-à-dire sur peut-être une vie. Hein. Moi, je pense qu'un macro-cycle, pour nous, en tant que sportifs, ça reste une vie. Hein. D'être dévié galopant, ça reste un objectif, bien sûr, que je pense qu'on a tous en tête. Aucun sportif ne veut arrêter le sport. Enfin, je pense, quand on a commencé à toucher
j'en
à ce genre
certain.
De trucs.
J'en suis pas certain, tu sais.
Alors, je pense que quand t'es sportif, t'as toujours peur de qu'une chose, c'est qu'est-ce qui va te limiter un jour, sans doute. Donc, on veut plus ou moins tous devenir dévié galopant. Et donc, je pense qu'en fait, il faut envisager globalement la progressivité aussi sur une vie, mais qui dit progressivité, et ça c'est important à avoir en tête, c'est pas forcément une ligne, c'est pas linéaire, tout comme une perte de poids, elle est pas linéaire dans le sens, mais c'est vraiment cette idée de je vais monter, je vais redescendre, je vais monter, je vais redescendre, mais pour que au global la pente soit ascendante. À partir du moment où le degré de la pente il est supérieur à zéro, bah on est dans une progression, et même s'il y a des petites montagnes russes entre les deux, c'est pas un problème.
Je suis entièrement d'accord.
Voilà.
C'est aussi ce que je dis dans plein de choses, en fait, dans le podcast
et
tout.
Pour boucler la boucle, pour boucler la boucle de l'épisode, le truc, c'est que. Hein,
t'en peux plus.
Non, à chaque fois, d'habitude, les gens ne savent pas, mais quand je finis, je suis souvent fatiguée. C'est de l'énergie, mine de rien. Pour boucler cette boucle, en fait, quelle est la différence entre l'apprentissage et la compétence ? Ben, l'apprentissage, c'est on est dans une situation qui est simple, ce qu'on appelle une tâche. C'est-à-dire qu'en fait, je sais faire ça, point. Et donc, je reviens aussi à l'origine du début de l'épisode où j'ai expliqué que la compétence, c'était tout sauf ça. C'était tout sauf faire un truc. C'était non seulement la capacité de choisir parmi ses ressources lesquelles je vais utiliser, mais surtout d'avoir la lucidité et la réflexivité de dire je sais pourquoi je l'ai choisi, j'ai pas choisi celle-là pour telle raison, et je l'ai choisi parce qu'elle est adaptée à telle contrainte ou telle ressource de la situation. Tu vois, et donc moi je trouve ça intéressant d'avoir ces trois étapes en tête et de se dire que finalement, pour pouvoir être compétent dans une situation, il faut accepter l'idée, déjà, un, de s'engager, de persévérer dans cet engagement, donc d'aller identifier les conditions sous-jacentes de cet engagement, le sens, la motivation, les représentations, les croyances, voilà, de travailler là-dessus, en fait, de se construire un schéma personnel là-dessus. Deuxième chose, d'accepter la contrainte, d'accepter de répéter, d'accepter d'apprendre, parce qu'apprendre, c'est ça, apprendre, c'est tout sauf marrant, parce que si c'était marrant, on resterait dans nos zones de confort. Donc la contrainte, elle serait identique à nos ressources. Mais l'objectif, quand même, dans notre vie, et notre vie est aujourd'hui complexe, et en fait, la compétence est révélatrice d'une situation complexe. La compétence est le moyen de s'adapter à des situations complexes, en fait. Parce que une situation complexe, la différence entre une situation simple et une situation complexe, c'est que la situation complexe a une infinité de solutions. C'est-à-dire que dans une situation simple, il n'y a qu'une unique solution pour réussir. C'est l'histoire des connaissances. C'est l'histoire de je suis en badminton et globalement, je dois faire 10 smash dans telle zone. Si je les fais pas, je les fais pas, quoi. S'il y a une solution, c'est oui ou c'est non, c'est binaire, en fait. À partir du moment où la réponse, elle est binaire, c'est une situation simple. Lorsque la réponse est plurielle, qualitative, etc., c'est une situation complexe dans laquelle il y a une infinité de solutions. Et c'est parce que l'individu va être capable d'aller faire ce compromis entre son niveau de ressources et le dilemme ressources contraintes de la situation qu'il sera réellement compétent. Et il sera réellement compétent presque à la condition qu'il le reproduise. Parce que s'il le reproduit, c'est qu'il a été capable de choisir le bon comportement. C'est pas qu'il reproduise le même comportement, mais qu'il reproduise le même niveau de réussite ou de performance. Tu vois ce que je veux dire ?
J'ai compris.
Donc j'ai pas mal résumé là, au final.
Ouais, t'as pas mal résumé. J'avais juste une question à te poser, mais... C'est, tu sais, le fameux geste parfait que certains aiment faire, tu sais, tu vois de quoi je parle ou pas? Tu sais, au tennis, tu sais, tu t'imagines ton coup parfait, tu sais, tu te dis, je vais faire un coup magnifique, parfait, avec le geste parfait, etc. Mmh. Mais qu'on peut avoir aussi en course, tu sais, tu te dis, ouais, j'ai une foulée, je pose mon pied comme il faut, etc. Et tu sais que souvent, on a l'impression de travailler ce truc-là. Tu sais, on pourrait dire, ça pourrait être finalement le truc de l'apprentissage.
J'adore, je sais que c'est
ce que
tu vas me dire, mais j'adore, vas-y.
Tu vois, de
vas-y.
Dire, finalement, ouais. J'ai un apprentissage et mon sens, c'est d'arriver à ce geste parfait, etc.
Alors.
Et puis, tu te. Attends,
il y a une réponse à donner là.
Oui,
vas-y,
mais je voudrais.
Vas-y.
Donne. Non, vas-y. Et parce que, en fait, je pense que ce geste, en fait, peut-être potentiellement il existe, mais que c'est pas forcément toujours le bon. Et que celui qui est extrêmement compétent sait que parfois il faut qu'il n'a pas besoin de sortir ce geste, qu'il peut avoir un geste totalement dégradé qui va être super efficace. Et que, en fait, sa vraie compétence, c'est de se dire qu'il a beau avoir travaillé ce geste parfait des milliers de fois. Un jour, peut-être qu'il le sortira pour je sais pas quoi. On peut pas en tennis pour gagner Roland Garros, mais peut-être que même un coureur, hein, on pourrait dire en course à pied, peut-être que pour l'UTMB,
c'est pas très technique la course à pied. C'est plus compliqué, c'est pas très technique la course.
Ouais,
à pied.
C'est pas très technique.
C'est tactique,
mais,
tactique. Mais
à la limite ou tactique ou changer la foulée, tu sais, ou dire bah j'ai une foulée totalement dégradée, mais qui est totalement pourrie.
Parce que la tactique fait partie des ressources de la compétence.
Ouais. Tu vois, mais ou dire à la limite j'ai pas une super foulée pour terminer ma course, mais en tout cas j'ai quand même une foulée qui me permet de gagner.
Prends pas la tennis, c'est un bon exemple. Prends le tennis, c'est cool. Mais ta question, en fait, je la reformule. Tu me dis si je me trompe, c'est dans quelle mesure les techniques corporelles permettent d'être compétent. C'est un peu ça.
Ouais, et puis comment tu répètes en fait un geste que tu imagines comme étant le geste que tu as envie de
non,
travailler.
Je vais apporter une réponse, mais nuance, plus nuancée, enfin plus mise en contexte. En fait, on a expliqué que les compétences, c'était la mobilisation des ressources à bon escient. Et donc, on peut envisager que ces ressources, eh bien, les techniques corporelles en sont une parmi d'autres. Et c'est ce que je t'ai expliqué en remettant tout de suite la question sur le trail ou sur... En fait, la technique corporelle est une ressource parmi d'autres pour agir, mais c'est pas du tout la seule, c'est pas du tout le seul champ, le seul pourvoyeur de ressources, tu vois. Il y a aussi des ressources énergétiques, des ressources nutritionnelles, des ressources tactiques, des ressources intellectuelles, donc psychologiques, tu vois. Et en fait, l'individu, il sera compétent à la condition qu'il utilise tout ça, en fait, en synergie. Donc, bien sûr qu'au sein de chacun des pools, il soit capable d'aller piocher la meilleure technique, la meilleure tactique, la meilleure énergétique, etc. Mais aussi, dans la synergie totale, d'aller valoriser peut-être l'une par rapport à l'autre. Donc, effectivement, l'individu compétent, si on prend une activité technique, parce qu'on va rester dans un champ technique, ouais, ça te va ? C'est pas forcément le... Parce que du coup, en trail, c'est compliqué. Vraiment, en course à pied, c'est compliqué. Le bon joueur de tennis, c'est pas le joueur qui maîtrise le plus de coups techniques. C'est pas lui. Le bon joueur de tennis, pour moi... Alors, le bon joueur de tennis, pour moi, c'est celui qui est capable d'utiliser le bon coup au bon moment. Ça, c'est le bon joueur. Mais le très bon joueur, l'excellent joueur, celui qui peut potentiellement devenir un mondial... C'est aussi celui qui est capable d'élever son niveau de jeu à un moment donné, ou tout du moins de ne pas diminuer son niveau de jeu dans les moments importants. Parce que c'est souvent ça ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des ressources mentales, hein, pour le coup, et intellectuelles, psychologiques. C'est qu'en fait, la pression fait qu'à un moment donné, on va avoir moins de lucidité, plus de peur, et on va plus s'inhiber. Et donc, à ce moment-là, bah, le niveau de jeu, il va baisser, quoi. Et pour moi, la différence, alors après, parce que j'adore ce sport, et c'est vraiment l'analyse que j'en fais de mon petit œil personnel, hein, mais pour moi, la différence entre un grand joueur et un très grand joueur, c'est ça. Ils ont tous plein de coups, ils savent tous bien les utiliser, mais le très très grand joueur, il est non seulement capable de bien les utiliser, mais tout le temps dans le match. Il n'y a pas de creux, et il n'y a surtout pas de creux dans les moments importants. Parce que le tennis, c'est un sport qui valorise des points importants, malheureusement, quand t'es à 40A, c'est pas la même chose que quand t'es à 15A, quoi, tu vois. Quand t'es dans le tie-break d'un quatrième set de grand chelem, c'est pas la même chose que même quand t'es dans tie-break d'un premier set de grand chelem. Parce qu'il y a des moments dans des matchs qui sont super importants. Et la question de la technique en course à pied, elle est vraiment beaucoup moins importante parce que on va être sur un apprentissage très long.
Ouais.
Et on va être sur aussi le fait que la technique, alors je parle en fond, en demi-fond, hein. Attention, en sprint, c'est pas pareil, hein.
En sprint, c'est pas pareil, oui.
La technique est un élément peu déterminant dans la performance globale, c'est-à-dire dans le prorata de la performance, qu'est-ce qui va le plus impacter ? Nous, en fond, en demi-fond, c'est le physiologique, c'est l'alimentation, mais c'est aussi les moi, je suis convaincue que le mental, il a une place bien plus importante presque dans notre performance globale que n'est la technique de course. Hein. C'est parce que intellectuellement, tu vas accepter la souffrance que tu performes sur du marathon ou sur du semi. Parce que franchement, il y a de la souffrance, il faut l'accepter, cette souffrance physique et psychologique, hein, d'ailleurs, parce que ça fait parfois super mal. Et du coup, c'est aussi ça, je pense. Et donc, je pense que la question de la technique, moi, je vois vraiment ça comme ça, les techniques corporelles ne constituent qu'une ressource parmi d'autres pour agir à un moment donné dans une situation. C'est vraiment
mais
la conclusion
parce que
je donnerais.
Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, c'est une discussion en vrai, bon, ok. Parce que, tu vois, j'avais regardé un tout petit peu l'UTMB l'an dernier, mais alors vraiment, moi, je trouve ça inintéressant de regarder l'UTMB à la télé, je le dis, hein, puis ça
non,
m'a pas fait changer de regarder.
Enfin, franchement, tu vois, les mecs qui courent à 8 à l'heure, non, les 10 à l'heure, oui, non,
mais,
c'est pas ouf,
hein. J'ai quand même, j'ai vu une scène quand même, tu sais, Kian Jornet qui était suivi. À un moment, il y a une scène où on voit Kian Jornet dans la forêt, il y a la descente dans la forêt, et devant lui, il y avait Mathieu Blanchard, et quand même, quand tu
dans
regardes
la matinée, là, sur la
ouais,
fin.
Dans la matinée, tu regardes quand même deux techniques de course. T'avais quand même une espèce d'impression d'aisance de Kian Jornet qui est, tu sais, c'est un peu
le
geste.
Tu confonds deux choses pour moi. Tu confonds la technique et la dégradation de la technique par des phénomènes de fatigue. Parce que intrinsèquement, peut-être que techniquement, c'est les deux. Mais peut-être que Mathieu Blanchard, à ce moment-là, il peut juste plus être technique parce que physiologiquement, il est cramé.
Ouais.
Tu vois?
Mais je veux
comme
dire,
en natation,
tu sais,
hein. En natation,
t'as
c'est le
ce
principal.
Sentiment d'avoir une technique, tu sais, une foulée qui est vraiment super agréable, qui est belle, qui a une, tu sais,
qui
est vraiment super belle,
qui est dynamique,
et
qui est
tu
sur
sais,
l'avant du
et
pied.
Beaucoup on se dit, tiens, je voudrais courir à telle vitesse, je voudrais avoir une belle foulée, tu vois. On a beaucoup cette notion-là qui peut arriver dans le geste. Et je me rappellerai toujours discussion. J'ai fait un épisode avec Runner Life 35 et qui me disait mais les gens quand ils me voient courir avec mon pied qui part sur le côté, ils peuvent pas imaginer que je cours autant. Quand tu vois cette distance, quand tu vois la vitesse à laquelle ils courent, tu sais vraiment qu'il n'y a pas que la technique de course qui va jouer, qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui jouent. Et on l'a tous vu sur des courses où on a quelqu'un qui court avec un bras qui est coincé, au club on avait un petit jeune qui court avec les deux bras totalement coincés comme ça et tout, et qui pourtant mettait des tours et des tours à tout un tas de gens parce que il avait autre chose, hein, peut-être pas la technique parfaite, mais c'est vrai quand même que des fois, dans notre tête, je sais pas si c'est notre éducation qui fait ça, on a cette notion aussi du beau geste. C'est peut-être une question d'ego en fait, de dire, tiens, j'aimerais bien quand même voir.
Certains
s'y prêtent pas.
Je pense qu'on est dans une société où on a une culture du beau geste, ça c'est sûr.
Ouais.
Tu vois, c'est pas par hasard si j'ai Roger derrière moi. Genre, pour information, voilà, j'ai Roger Federer. Mais parce que pourquoi c'est un joueur qui est apprécié? Alors parce que, oui, bien sûr, après, il y a les pros Nadal et tout. Il y a des gens qui disent, au final, c'est toujours Nadal qui gagne, tu vois. Des joueurs qui... Bon... Roger, pour le coup, c'est la technique absolue, c'est la beauté parfaite du geste. Alors que Nadal, il y a d'autres valeurs, hein, et c'est un joueur que j'adore aussi, hein, mais il y a d'autres valeurs. Il y a la combativité, il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui incarne, pour moi, aujourd'hui, la technique pure et parfaite dans le monde du sport, c'était lui. Alors, on peut pas comparer des sports qui sont pas comparables, hein, on peut pas comparer, par exemple, rien que le tennis et l'athlé, mais à ma gauche, à ma droite, on enlève Nelly, pour le coup, mais... qui est aussi très technique par rapport à son gabarit, parce qu'il a un gabarit ultra atypique par rapport à un sauteur en hauteur,
à
la perche.
À la perche, ouais.
Là, il est temps qu'on arrête.
Et non, mais attends, on va conclure, et je vais dire un truc, parce que j'ai vu un exemple quand même cette semaine sur Instagram, un gars que j'avais jamais vu, moi. Je suis pas trop, enfin, j'aime beaucoup le basket, mais je suis pas à l'NBA. Et il y a un joueur de je sais plus quelle équipe qui fait ses lancers francs à une main. Et qui, esthétiquement, c'est pas le geste dont on a l'habitude.
Juste comme ça, là? Il prend le
ballon
par
juste
dessus.
Une seule main, et l'autre main, il la met sur le côté. Et ben, l'explication du geste, c'est qu'en fait, sa deuxième main, c'était sa main gauche, venait perturber le geste, et en fait, lui amener, en fait, des perturbations techniques qui faisaient que le ballon, en fait, il avait un taux de réussite de 49%. Depuis le jour où il lance son ballon, où il fait plus son lancer à une main,
mais là, tu
il
nous
est passé
sur un autre truc, Bertrand,
80%.
La place
et
de la technique
truc,
par rapport à la technique.
Plein de gens qui vont trouver que c'est moche, que c'est pas un bon geste, que le geste est super bizarre, que c'est bizarre, hein, ce mec-là qui fait ça, que les autres, ils ont tous comme ça. Mais en fait, et ben, dans sa compétence, tu vois, il a compris un truc, c'est qu'il fait qu'il travaille le geste dans l'efficacité et que c'était ce geste-là qui était efficace. Et je trouve que c'est un super bon exemple, tu vois, qui monte dans d'autres sports un petit peu. Mais finalement, de dire, et ben, entre le mec qui a en apparence le tir classique et qui semble beau et qui réussit à 49 et le mec qui semble tirer comme un canard et qui balance à 80%, l'entraîneur, les supporters, le joueur, il va choisir le mec à 80%.
On est sur les
pourtant, tu vois. Et pourtant, on est sur le beau geste. Bon, allez, ceci était une parenthèse. Ça fait 1h26 quand même qu'on
on
papote.
On est bavard.
La minute perte devient de plus en plus longue. On va appeler ça le... En fait, on est dans les temps de préparation pour ceux qui préparent le marathon, tu vois. Donc, voilà.
Eh bien,
t'as rien d'autre à dire? Je t'ai coupé la chic.
Non, mais moi, je dis plus rien. Moi, je
allez, va manger un bout de chocolat pour digérer cet épisode. Écoute, c'était un épisode. Alors franchement, moi j'ai appris extrêmement de choses et je pense que ce fameux curriculum conatif va vraiment faire partie des gros apprentissages, tu vois, qu'il y a plein de gens qui vont découvrir et qui vont regarder ce qu'ils font, ça va leur rappeler plein de souvenirs, cette histoire-là, etc. Ce qui n'est pas toujours facile de placer exactement à quelle étape on en est, parce qu'il y a toujours des intermédiaires sur le parcours. Hein, c'est les étapes là sont très marquées, mais je pense qu'il y a chacun va se reconnaître un petit peu du passage à l'autre, et je pense que dans plein d'expériences, dans plein de choses, et c'était vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup, Laure,
en tout cas, c'est trop gentil, Bertrand,
pour toute cette compétence que tu nous as amenée.
Moi, je te remercie pour cette complicité qui est la nôtre et que j'adore vraiment.
Tu vois, si j'étais un peu un étudiant faillot, à la fin, je t'amènerais un petit carré de chocolat, ou je t'inviterais
à
boire un petit café,
boulins,
ou avec un petit
boulin,
etc.
Mais tu sais, Bertrand, tes questions sont vraiment tout sauf ce que tu disais. Je n'aime pas du tout que tu dises ça. Et je te remercie parce que c'est grâce à tes questions que j'arrive à apporter des réponses. Voilà.
Eh bien, écoute, alors tu sais ce que je vais faire. Pendant la semaine qui vient, j'ai préparé mon lot de questions à la con. Je vais te balancer ça sur WhatsApp. Mais en plus, je t'en ai balancé une question déjà à la con. Donc, c'est pas. Déjà, tu vois, donc tu t'en rappelles pas. Donc, on fera un petit point sur le sujet.
Cerveau de poisson rouge, ce soir.
Et puis, bien sûr, dans les notes d'épisode, je mettrai les liens pour te retrouver, pour te contacter, pour me contacter, pour nous retrouver, pour savoir tout ça. On parle de quoi la prochaine fois, tu le sais?
Ah oui, on parle d'une journée type d'un point de vue de l'alimentation, je crois.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Journée type du plan alimentation. C'est. Ouais. Bah écoute, ça promet une sacrée discussion. On va voir à quel moment on place les belins, quel belin et comment on place les belins. Et je te ressortirai mon histoire de mon bateau.
Les belins, je n'en mange plus, je te le dis. Il n'y a que dans un contexte unique que j'en mange. Voilà.
D'accord.
Donc j'ai arrêté les belins.
D'accord. Écoute. Oui. Eh ben, on en parlera une autre fois. Sur ce, je te souhaite une très très belle fin de journée. Je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de journée, des bons entraînements. J'espère que vous avez compris l'apprentissage, la motivation, l'engagement, comment on apprend, comment on progresse. C'est vraiment.
C'était un épisode léger, j'ai envie de dire. Ouais. On va se ressaisir dans le prochain.
Alors, léger, je sais pas, parce que si on fait une petite interro.
Quantitativement, non, mais qualitativement, je trouve que nous avons été légers. C'était léger.
Tu trouves?
Ouais, je trouve.
Non, moi je trouve qu'on l'a fait sur un ton très détendu, mais avec un sujet qui est vraiment
très, extrêmement sérieux. Ah, mais on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, moi.
Voilà, c'est
bien.
Ça. Donc je l'appellerai pas léger, je l'appellerai un sujet très sérieux, mais traité d'une manière avec beaucoup de sourire. Et je pense que ça va être continuer ainsi. Je te remercie en tout cas.
Moi aussi, Bertrand.
Beaucoup,
à très vite. Et j'ai dit avant toi pour pas qu'il y ait de blanc.
Et voilà, et on dit à très vite. Salut. Merci pour avoir hésité les blancs. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine et puis tout au long de la semaine pour les nouveaux épisodes du mercredi, le conseil du samedi. Et bien sûr, venez dans le Hamster Sonic Club poser vos questions si vous en avez ou ailleurs, mais parce que les questions nourrissent aussi nos réflexions. Et vous avez vu, ça amène plein de réflexions. Merci Laure.
Salut Bertrand.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.